N'hésitez surtout pas à d'abord lever la main et ensuite nous donnerons la parole à tour de rôle. Vous pouvez normalement écrire dans le chat, donc voilà, sur ça, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser, donc en respectant bien sûr l'ordre de passage et l'ordre qu'on va vous donner. Et au-delà de ça, que tout le monde garde son micro coupé, s'il vous plaît, pour éviter peut-être les bruits inutiles qui vont déranger les présentateurs. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être que je précise autre chose ou...
Non, c'est bon, ça me paraît complet. Si quelque chose nous revient, on le signalera. Ok, merci Walid. Je vous propose de commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Éric Pezet, je suis professeur en sciences de gestion à l'Université Paris-Nanterre et je redirige la chaire partenariale gouvernée à l'organisation numérique avec Catherine Trévisy, qui est codirectrice du master droit du numérique et codirectrice du centre de recherche sur le droit public. Donc avec Catherine, nous vous remercions de votre participation à ce webinaire sur le thème « Travail et numérique ». D'abord un mot sur la chaire. La chaire gouvernée l'organisation numérique a été créée en partenariat avec Enedis, Planon, Sauter Régulation et le CFA-AFIA. Et vous pouvez trouver sur le site de la chaire les liens qui vous permettront de faire connaissance avec nos partenaires, de voir leurs activités, leurs métiers. Les organisations syndicales UGICT-CGT et CFE-CGC sont aussi associées à la chaire. Alors, pour les partenaires de la chaire, gouverner l'organisation numérique, c'est orienter le développement du numérique vers des finalités réfléchies, clarifiées et partagées. Et l'objet de la chaire est d'étudier l'impact de la production, de l'exploitation des données numériques sur le fonctionnement et le gouvernement des organisations. Alors, la chaire associe les étudiants à sa réflexion sur le numérique. Aujourd'hui, ce sont les étudiants du master gestion stratégique des ressources humaines et numériques et les étudiants du master droit du numérique. Il est important pour nous d'associer les étudiants aux travaux de la chaire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la chaire a une vocation de recherche et que le métier d'enseignant-chercheur consiste à produire de la connaissance et à la transmettre. Une deuxième raison est qu'au cours de leur stage ou de leur apprentissage, les étudiants acquièrent des connaissances sur les usages du numérique et ils mènent une réflexion qu'il faut les aider à développer et à valoriser. Et la chaire est un lieu d'échange qui favorise ça. Et puis il y a une troisième raison, qui celle-ci, à notre avis, est nouvelle et qui est liée à la numérisation de notre environnement. C'est que cette numérisation n'est pas perçue de la même manière suivant les générations qui la vivent. Et chaque génération a une expérience du numérique qui lui est propre et qu'il est important, et il est important de partager cette expérience. Du point de vue de l'enseignement, on ne peut pas voir seulement la numérisation comme une connaissance à transmettre. C'est aussi une expérience à partager. Et c'est une expérience que toutes les générations vivent ensemble, mais cette expérience n'est pas la même pour ces générations. Et le numérique que vit ma génération n'est pas celui que vivent mes étudiants. On le voit quand on pense à l'évolution du web, quand on voit le passage du web 2.0, 3.0, 4.0. Et cette évolution me semble illustrer l'écart générationnel que développe l'expérience numérique. Le développement technique lui-même, par les noms qu'il se donne, donc 2.0, 3.0, fait référence à des générations. Et s'agissant du numérique, la succession des générations est très rapide. À un même moment, se côtoient des générations qui ont des usages différents du numérique. Les applications que nous utilisons ne sont pas toujours les mêmes, et la place du numérique est différente suivant qui nous sommes et en particulier notre génération. Et donc, il faut élaborer et transmettre des connaissances, mais aussi prendre en compte les usages du numérique, qui sont des usages en partie générationnels, et qu'il faut aussi, il faut partager les expériences, les questionnements, si l'on veut gouverner l'organisation numérique. C'est aussi ce que permet de faire cette chaire. Les webinaires que nous organisons sont faits pour partager des questionnements et faire des propositions de réponses. Mais ils sont aussi faits pour dégager des pistes de recherche et pour encourager les étudiants et les chercheurs à venir échanger et à faire connaître leurs travaux dans le cadre de la chaire. Donc nous invitons chaleureusement les étudiants, alors prioritairement les étudiants de master, qui le souhaitent, à ne pas hésiter à proposer des projets. La chaire est un lieu de coopération. Nous invitons aussi chaleureusement nos collègues qui le souhaiteraient à ne pas hésiter à venir développer, dans le cadre de la chaire, des projets pédagogiques ou des projets de recherche. Aujourd'hui, nous intéressons au rapport entre travail et numérique. C'est un intitulé de séminaire qui est très large. Travail et numérique désigne un très vaste chantier. Mais quand on s'intéresse au gouvernement de l'organisation, le sujet du travail est important parce qu'une organisation est construite pour une finalité et les membres de l'organisation contribuent à atteindre cette finalité en exerçant des activités. Et pour une bonne part, le gouvernement de l'organisation, c'est le gouvernement du travail. Alors le sujet comme travail et numérique, comme je viens de le dire, est large, mais vous avez pu constater en lisant l'ordre du jour que nous avons beaucoup resserré notre propos. Et nous avons bâti ce webinaire en deux volets. Le premier volet porte sur l'analyse du travail. L'analyse du travail est cardinale pour la vie des organisations parce que c'est à partir d'elle que l'on peut aborder la question de la structuration, de la construction de l'organisation, mais aussi les questions de conditions de travail, les questions de rémunération parmi d'autres questions qui touchent notamment la gestion des ressources humaines. Et une difficulté pour l'analyse du travail vient du fait que la numérisation s'est imposée sous la forme d'outils qui sont devenus naturels à utiliser et que nous avons tendance à ne plus y prêter attention. Le second volet porte sur les applications. Nous nous intéresserons d'abord à la conception des applications. Celles que nous utilisons au quotidien nous sont le plus souvent livrées toutes faites et la question de la conception n'est pas visible par nous. Pourtant, le développement du numérique se fait aussi dans les organisations à partir de l'identification des besoins. Et il y a dans l'organisation numérique une dimension de développement, dimension de projet, et c'est ce dont nous allons parler à partir du contexte de l'institution judiciaire. Le deuxième thème que nous allons aborder relativement aux applications, c'est celui du recrutement. Les applications dans ce domaine sont très nombreuses, et comme vous le verrez en première partie, le recrutement est l'une des activités où le numérique est très présent. Nous parlerons tout à l'heure d'applications permettant le recrutement par cooptation. Il s'agit là d'un cas où la numérisation peut introduire des changements importants dans le management des organisations. En soi, la pratique du recrutement par cooptation n'est pas nouvelle, mais le numérique pourrait la faire très grandement évoluer en instaurant un changement d'échelle. Parce que le nombre de membres de l'organisation pouvant ou qui peuvent contribuer à la cooptation devient beaucoup plus important et ça permet d'étendre cette pratique du recrutement. Voilà, donc tout cela va être développé autour des interventions qui viennent et en suivant l'ordre des interventions, je voudrais remercier de leur participation et de leur contribution à la construction de ce séminaire de Eva Moffat, donc qui est maître de conférence en sciences de gestion, et les étudiants du Master 1, gestion stratégique des ressources humaines et numériques. Je voudrais aussi remercier de leur participation à ce webinaire Félicie Calipel, qui est secrétaire générale adjointe de la présidence du tribunal judiciaire de Nanterre, et Delphine Denebourg, qui est directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine. Enfin, je voudrais remercier Sébastien Aumètre, qui est cofondateur de la start-up Push Talent. Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'ordre des présentations a été un peu modifié par rapport à l'ordre du jour que vous avez pu lire avant de venir. Après avoir parlé d'analyse du travail, nous parlerons du développement d'une application numérique en contexte judiciaire, puis d'une application numérique comme outil de recrutement par cooptation. Voilà, je donne maintenant, sans plus tarder, la parole à Eva Moffat.
Merci, Eric. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous vous en doutez, le numérique fascine, il inquiète. Mais en réalité, que change-t-il dans le travail et dans notre relation aux autres ? Telle était l'interrogation initiale posée dans le cadre du cours Analyse du travail du Master 1 GSRH et numérique. Les outils numériques transforment en profondeur le travail, dans ses formes, dans son contenu, comme dans son organisation. En effet, le numérique redéfinit les compétences mobilisées, il recompose les relations, les rapports de travail, il va bousculer les frontières entre vie professionnelle et vie privée et interroge plus largement, comme l'a dit Eric, les conditions de travail, avec notamment de nouveaux risques professionnels liés à l'hyperconnectivité ou encore au déséquilibre entre les espaces professionnels et personnels. Cette transformation numérique donne lieu à l'émergence de nouvelles formes de travail liées à l'économie collaborative, tout en impactant les emplois et en changeant nos façons de travailler. Si l'on veut reconnaître les compétences et la qualification des emplois, il est donc indispensable de les identifier par une analyse du travail. Et aujourd'hui, les étudiants du Master 1 GSRH numérique vont présenter leurs travaux qui vont s'articuler autour de l'impact du numérique sur la politique de sécurité de l'information en entreprise et sur les métiers du recrutement et plus largement les métiers de gestion. Je vais leur donner la parole et nous pourrons commencer par le premier groupe, donc le groupe 2, perception du numérique à travers la comparaison d'un secteur digitalisé et un secteur nouvellement digitalisé. Merci à vous. Donc c'est le groupe de Siam, Zineb et Sincha.
Bonjour madame, donc là on va...
Bonjour à tous.
Bonjour.
On va partager l'écran dans un premier temps.
Est-ce que vous voyez bien l'écran ?
On le voit, c'est pas en plein écran, je ne sais pas si c'est possible.
Oui, c'est normal. Là, vous le voyez, en plein écran ?
Oui.
D'accord. Ok. Alors, dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés à la transformation digitale des entreprises. Donc, Cynthia, si tu peux changer le slide. Alors, la conférence de presse du président de la République du 9 décembre dernier sur la présidence française de l'Union européenne aborde la transformation numérique des secteurs d'activité. Donc, l'ambition d'Emmanuel Macron était de faire de l'Union européenne une puissance du numérique. Donc, c'est dans ce cadre qu'on peut percevoir l'avenir et les orientations politiques à long terme concernant le numérique. Donc, pour introduire notre sujet également, je vais vous citer une phrase de l'auteur Duetan. La réalité est une chose mystérieuse et fluctuante, car la perception que nous en avons ne reste jamais la même. Donc, ainsi, notre étude porte sur la perception de l'ancrage numérique selon les secteurs d'activité. Nous allons vous présenter l'impact du numérique en fonction des secteurs digitalisés et moins ou nouvellement digitalisés, le point d'accélération se trouvant durant la crise sanitaire, qui a facilité la transformation digitale et bousculé les modes de travail dans les secteurs moins digitalisés. Donc ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, qui est: comment l'évolution du numérique a-t-il impacté les secteurs d'activité digitalisés et nouvellement digitalisés du point de vue de la transformation numérique, notamment suite à la crise sanitaire? Voilà, donc je laisse la suite à mes camarades.
Est-ce que vous pouvez m'entendre ?
Oui.
Ok, pardon, parce que j'avais coupé le son. Excusez-moi. Alors, à présent, nous allons voir le développement, le cadre théorique. Alors, la notion de transformation digitale peut sembler récente, car elle vient petit à petit se substituer à la notion de digitalisation. Mais en réalité, elle a débuté depuis le XXe siècle, avec l'émergence de la transformation numérique. Elle est utilisée depuis 2004 et a longtemps été associée au terme de numérisation, qui fait référence aux dernières révolutions technologiques. C'est donc par cette ambivalence qu'il a été important pour nous de définir ce qu'est réellement la transformation digitale. D'après l'ouvrage de Rémy Reffel, Révolution numérique, révolution culturelle, le terme numérique possède plusieurs définitions du point de vue européen. La plupart des langues européennes associent le terme numérique au latin digitus, qui signifie le doigt pour désigner les nouvelles technologies, privilégiant donc le sens du toucher. Par opposition, la langue française se réfère à numerus, qui signifie le nombre, en raison des progrès techniques récents dans les domaines de l'informatique. C'est à partir de 2013 que l'expression transformation digitale s'est développée dans le discours des entreprises. Pourtant, ce terme recouvre des réalités parfois différentes. Ainsi, définir ce qu'est la transformation digitale de l'entreprise semble être impossible du fait qu'il soit difficile de caractériser où elle commence et où elle se termine. Elle reste donc assez mal définie au sein des organisations. Cependant, face à cette complexité terminologique, nous avons décidé de baser notre étude sur une définition reliant les deux termes. La transformation digitale est le développement donc accru du numérique dans les pratiques du travail vers une organisation plus collaborative, plate, moins centralisée et laissant une place large autonomie d'action à l'acteur, mais aussi dans les produits de services et à proposer aux clients. Il est important de souligner que les organisations de façon générale ont été les institutions à l'initiation de l'utilisation des technologies de l'informatique. En effet, les technologies de l'informatique, les ordinateurs, les téléphones, les fax, étant très coûteuses à leur début, les salariés n'en disposaient pas au sein de leur ménage. Ainsi, l'utilisation de ces technologies ne se faisait qu'au sein des entreprises. Cependant, avec l'arrivée des technologies digitales, elles disposent plus de cette place. Par ailleurs, la transformation digitale est devenue très envahissante dans les structures organisationnelles. Ce qui semble le plus important à l'heure actuelle, c'est de digitaliser les outils et les techniques. Elle est vue comme un processus majeur et décisif. Elle est donc présentée comme nécessaire pour pouvoir s'adapter à des évolutions externes à l'entreprise. Dans son ouvrage « Like ton job, comment vivre avec bonheur la transformation digitale », Olivier Bass définit deux types de monde au sein de nos sociétés. Celui des entrepreneurs du web et des digital natives, ça veut dire les entreprises du nouveau monde, Apple, Google, Facebook, Amazon, Uber, etc. Et celui des entreprises dites traditionnelles. Les entreprises du nouveau monde basculent les entreprises traditionnelles, ils heurtent les vieux business models des entreprises classiques. Il ne s'agit plus pour elles de dominer leur marché, mais simplement de survivre. Ainsi, à présent, je vais laisser place à Siem qui va nous exposer les hypothèses et les problématiques que nous avons pu rencontrer.
Alors, je vais à présent vous présenter les différentes hypothèses que nous nous sommes posées lors de notre étude. Donc, notre problématique soulève plusieurs hypothèses. On distingue ici 6 hypothèses se présentant dans l'ordre suivant. La première hypothèse est la partie évasée de l'entonnoir et correspond donc à l'aspect général de notre étude. Et la dernière hypothèse représente la partie étroite de l'entonnoir, soit l'aspect le plus précis de notre analyse. Notre première hypothèse est que l'évolution du numérique a eu un impact sur les secteurs d'activité. Nous nous sommes alors intéressés aux différents secteurs d'activité, ce qui nous a amené à notre seconde hypothèse, c'est-à-dire que l'utilisation du numérique est différente selon les secteurs d'activité. Puis, en analysant l'évolution du numérique dans les différents milieux, nous avons soulevé une troisième hypothèse qui est que l'impact du numérique est plus ou moins important en fonction des différents secteurs d'activité. Par la suite, et toujours en comparant les secteurs d'activité, notre quatrième hypothèse est que les milieux moins ou nouvellement digitalisés ont moins été impactés par les conséquences du numérique que les secteurs déjà digitalisés. Ensuite, nous avons défini comme cinquième hypothèse que le numérique peut avoir des conséquences négatives sur les employés. Enfin, notre dernière hypothèse est que la santé des employés est affectée par la forte digitalisation des métiers. Donc ainsi, c'est grâce à cette comparaison entre les secteurs digitalisés et les secteurs moins ou nouvellement digitalisés que nous sommes en mesure de vérifier la validité de nos hypothèses.
Du coup, on va passer aux enquêtes. Afin de répondre à nos différentes hypothèses, nous avons décidé de procéder à 4 entretiens. Ces personnes ont exprimé leur opinion durant l'entretien à travers différents thèmes, à savoir leur pratique et leur fréquence d'utilisation des outils numériques, leur définition théorique, leur perception de la transformation digitale dans les structures organisationnelles, ainsi que la conséquence ou non de la transformation digitale sur leur santé. Afin de du coup de sélectionner les personnes à interroger, nous avons dans un premier temps défini différents critères, comme l'utilisation plus ou moins forte du numérique, car en effet notre but était de comparer les différentes perceptions des personnes étant aussi bien dans des secteurs digitalisés que moins digitalisés, voire nouvellement digitalisés pour certains. Nous avons aussi le critère de l'âge et le critère du sexe, car nous tenions aussi à avoir une parité lors de cette sélection. Alors maintenant, je vais vous présenter les différentes personnes qui ont été interrogées.
Essayez d'aller à la conclusion, au rythme. Il vous reste 2 à 3 minutes.
D'accord. Pour les secteurs digitalisés, nous avons un développeur web et une chef de groupe marketing. Et pour les secteurs digitalisés, un opticien et un professeur universitaire. Du coup, on va passer aux définitions. Alors, nous avons pu observer durant ces entretiens que les définitions du numérique et de la digitalisation étaient assez difficiles à définir pour la plupart. Ils avaient pourtant un point commun qui est ressorti pour la définition du numérique sur 3 des entretiens, qui est défini comme quelque chose de non réel, mais qui serait présent dans les outils technologiques. Par contre, le développeur, lui, définit le numérique comme les différents outils technologiques comme les ordinateurs, téléphones, etc. Pour la définition de la digitalisation, cette définition ressort de façon identique à celle du numérique. Cependant, pour le développeur, lui, il définit la digitalisation comme l'utilisation du numérique. Donc on peut observer que même si on a interrogé des personnes d'un même secteur, à savoir le secteur digitalisé, leur définition ne ressort pas de la même façon. On a pu observer aussi pendant les entretiens que le numérique avait développé chez eux de nombreux problèmes comme l'acuité visuelle, des maux de dos, des risques psychosociaux. L'impact négatif sur la santé concerne autant les milieux digitalisés que moins digitalisés. Et cela n'a fait qu'empirer depuis la crise du Covid-19 et l'instauration du télétravail. Parce qu'il faut savoir que sur les 4 personnes interviewées, seulement 3 peuvent télétravailler. Le télétravail a entraîné de nombreuses modifications, aussi bien dans la vie privée que la vie professionnelle. Et en effet, nous pouvons retenir de nos entretiens que la limite entre la sphère privée et la sphère professionnelle reste infime, voire pour certains inexistante. Du coup, la perception de la transformation numérique, cette évolution du numérique a eu pour les 4 un réel impact dans leur vie. Ainsi, cet impact reste en grand nombre positif, car cela a permis de faciliter le travail demandé. Cette évolution a touché la majorité des milieux professionnels de façon plus ou moins forte. Cependant, les secteurs moins digitalisés ont été d'autant plus bousculés depuis la pandémie. Bien que cela ait eu un impact positif, tous restent conscients qu'à long terme, cette transformation entraînera la suppression de certains métiers, qu'ils soient dits classiques ou digitalisés. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole pour la conclusion à CM.
On va commencer au groupe 4. Je suis désolé, mais si on veut, comme il y a beaucoup de personnes qui parlent. Merci.
Merci. Le groupe 4, impact du numérique à travers la digitalisation sur les emplois de gestion en France. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, j'ai partagé mon écran.
Ok, et essayez de bien tenir moins de 10 minutes.
Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui.
Oui, ok, c'est bon. Hop. Alors, du coup, c'est bon, vous m'entendez, vous voyez bien, c'est bon ?
C'est bon.
Ok. Alors, du coup, dans le cadre de notre projet en analyse du travail, on a été amené à travailler pendant 3 mois, donc d'octobre à décembre 2021, sur un projet qui s'intitule « Le numérique au travail » et nous nous sommes intéressés à l'impact de la digitalisation sur les emplois de gestion en France. Hop. Je suis désolée, mon ordinateur, il bug un petit peu, là. bah là.
J'ai inversé Vénus.
Ouais, vas-y, parce que moi il a planté là. Merci.
Je te laisse commencer.
Ouais, bah c'est bon, tu peux passer à la slide d'après du coup. Alors du coup, ça nous a amené à une problématique qui était est-ce que la nouvelle tendance de digitalisation représente une opportunité ou une menace pour les emplois de gestion ? Donc là, vous avez le poster qui s'affiche à l'écran. Donc, nous allons, dans un premier temps, vous faire une présentation de la digitalisation. Ensuite, nous allons vous présenter les avantages et les inconvénients de la digitalisation pour les emplois de gestion. Et nous allons finir par une conclusion sur l'objet du projet. Donc, nous allons commencer par une définition des notions clés, donc digitalisation numérique et emploi de gestion. Donc, la digitalisation représente un processus par lequel l'homme utilise des technologies numériques. C'est une évolution technologique également appelée une transformation digitale. Le numérique, quant à lui, correspond à un ensemble d'outils, de logiciels, de canaux de diffusion et de distribution technologique. Et le numérique est directement lié à la digitalisation parce qu'il en est l'essence même. Les emplois de gestion, quant à eux, correspondent à un ensemble de métiers, de services qui sont nécessaires à la pérennité d'une entreprise. Et dans un langage plus professionnel, on appelle ça des fonctions support. Alors, je vais ensuite vous faire un état des lieux de la digitalisation. Donc, la digitalisation est un processus qui est apparu dans les années 1970, qui a apporté une dimension nouvelle avec l'arrivée de nouveaux logiciels qui ont permis de réduire les tâches répétitives et les activités chronophages. Ça a apporté des outils de performance qui ont permis de maximiser les profits. La digitalisation, elle est directement associée à la transition numérique et elle affecte tous les secteurs. Alors, la digitalisation a induit le fait que les entreprises doivent constamment faire preuve d'adaptabilité et doivent se transformer en profondeur puisqu'elles doivent revoir leur organisation managériale, leur stratégie et également leur environnement collaboratif. Alors là, nous vous avons fait un petit état des lieux des emplois de gestion qui sont touchés par la digitalisation. Les plus touchés, donc nous avons la logistique, la grande distribution, les banques, les assurances, et le secteur qui nous touche le plus, c'est le secteur des ressources humaines. Et là, nous vous avons fait un petit récapitulatif de tous les outils de la digitalisation. Donc on peut voir qu'ils sont nombreux et qu'ils permettent de réaliser beaucoup de tâches différentes. Donc nous avons par exemple les plateformes de communication avec la G Suite, ou encore les outils de gestion de recrutement comme Smart Recruiters ou Talentsoft, par exemple. Mais vous voyez qu'ils sont bien plus nombreux que ça.
Alors, la digitalisation a des répercussions positives sur tous les emplois, et notamment les emplois de gestion. Donc, une répercussion positive, c'est une conséquence favorable résultant d'un fait, d'un acte ou d'une situation. Dans le cadre de notre groupe de projet, là, c'était dans le cadre d'une tendance. Donc, la digitalisation permet non seulement de nombreuses opportunités dans toutes les activités, mais également dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc on a pu relever 6 répercussions positives majeures. En effet, on a constaté que la digitalisation, c'était un outil de performance à travers le fait qu'elle permet l'efficacité des acteurs et également la rapidité des données. En effet, elle permet de bénéficier des informations ciblées en temps réel et elle permet de détecter et corriger les anomalies. C'est ce qui est indispensable à toute entreprise et permet de s'adapter à une nouvelle organisation de travail. C'est également un outil de communication au niveau du fait qu'elle permet la visibilité des informations et permet également la facilité des interactions. Comme l'a dit précédemment ma camarade, il y a de nombreux outils qui permettent justement d'interagir sur le poste du travail, mais également à distance, ce qui permet justement d'échanger plus efficacement. Donc c'est l'autre avantage que nous avons relevé, c'est le fait que ça permet d'éviter le gaspillage de papier. En effet, la dématérialisation réduit l'empreinte écologique et réduit aussi l'impact environnemental. Donc le fait que tous les papiers, toutes les données soient dématérialisées, ça simplifie le traitement des documents. Et ça également, ça permet de responsabiliser chaque collaborateur et personne présente dans le circuit de validation. On a également relevé le fait que ça permettait d'améliorer le bien-être au travail, dans la mesure où certains collaborateurs préfèrent travailler de chez eux ou ailleurs, tout en étant connectés. Donc là, on a un exemple d'avantage de la digitalisation sur le métier de chargé de recrutement. comme on l'a dit précédemment, avec les outils de gestion issus de la digitalisation de recrutement, donc comme Smart Recruiter ou Talentsoft, qui permettent tous deux de trouver des candidats et profils plus rapidement, de réaliser de ce fait une meilleure sélection des profils et de conserver uniquement les candidats qui correspondent le mieux aux critères spécifiques du poste. Donc, comme on le sait, le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est un outil également de performance. Donc, il y a de nombreux aspects positifs issus de la digitalisation. Malheureusement, de nombreux aspects négatifs sont aussi à souligner.
Donc, nous avons pu constater trois répercussions négatives majeures. Donc, tout d'abord, la perte de compétences, c'est-à-dire de savoir-être et savoir-faire. La digitalisation affecte les relations humaines de l'entreprise. Elle provoque une perte de contact humain, donc de savoir-être. La digitalisation conduit les salariés à effectuer des tâches simplifiées, ce qui engendre une perte de compétences, de créativité. Donc, la deuxième répercussion négative concerne, donc c'est pour les salariés, la digitalisation implique une nouvelle organisation dans leur travail. Les collaborateurs ont parfois du mal à s'adapter aux changements organisationnels. Le télétravail implique un arbitrage entre contrôle et liberté. Elle peut engendrer une perte de sentiment d'appartenance du salarié. Et enfin, la digitalisation peut conduire à un environnement surconnecté. Concernant la troisième répercussion négative, donc la disparition de certains métiers, la digitalisation a provoqué une baisse considérable du nombre de salariés, particulièrement dans le secteur banque et assurance. Selon l'Eurostat, en 1986, on était à 356 000 salariés, tandis qu'en 2021, on était à 221 000 salariés. Entre 2004 et 2016, on constate une baisse de 23% du nombre de salariés. Donc, nous avons pris ici l'exemple du métier de comptable. Vous pouvez observer sur le graphique l'évolution du nombre de comptables en France. Toujours selon l'Eurostat, en 1986, on était à 335 000 salariés, tandis qu'en 2016, on était à 300 000 salariés. Donc, ces chiffres nous montrent que le nombre de comptables en France diminue. Donc, comme l'a dit précédemment Vénus, la digitalisation est apparue dans les années 70, donc on peut en déduire que cette baisse est liée à la digitalisation. Donc, selon une prévision de l'Eurostat, le métier de comptable serait amené à disparaître d'ici 2060.
Dans le cadre de notre mémoire, nous avons fait 5 entretiens portant sur la digitalisation des métiers de gestion. Alors, ces entretiens ont donc été réalisés en relation avec des professionnels de la gestion ayant des métiers différents. Donc, d'un point de vue plutôt exécutif, notamment avec des directeurs commerciaux, et d'un autre côté un peu plus opérationnel, avec des gestionnaires et des RH. Les emplois de gestion donc sont considérés par les enquêtés comme, par exemple, un terme vague, général, vraiment très, très global. Donc ça a été dit 5 fois. Un métier du service rattaché à des responsabilités de gestion, donc ça a été dit 3 fois. La digitalisation, quant à elle, est considérée comme du coup un outil de performance et de communication qui est efficace, donc entendu à 6 reprises, qui occasionne un gain de temps, qui a été entendu à 5 reprises, et également ce qui occasionne un progrès technologique, donc ça a été dit 2 fois. Mais la valeur la plus prédominante ici, c'est la perte de lien et également de proximité qui a été dit 12 fois. Je vais changer la diapo. Également, voilà. Pour conclure, les entretiens nous ont permis de confirmer l'hypothèse de base ainsi que nos recherches. La digitalisation est autant source d'opportunités que de menaces pour les emplois de gestion. Elle cause une perte de savoir, savoir-faire, savoir-être et d'échange. Cependant, elle est utile, efficace et rentable. C'est une opportunité ayant un effet multiplicateur dans l'économie. Les gains qu'elle procure sont supérieurs aux coûts qu'elle engendre. Au niveau des préconisations, donc pour réduire justement cet impact de la digitalisation sur les salariés, il faut former. Donc la formation, elle permet du coup de développer de nouvelles compétences technologiques et spécifiques, être rapidement opérationnel. Elle permet également d'amener à la compréhension profonde des procédés des outils digitalisés. Elle permet aussi de raviver la communication et le sentiment d'appartenance. Et enfin, d'assurer l'employabilité des salariés conformément à l'article L6321-1 du Code du Travail. Nous tenons vraiment à vous remercier pour cette écoute et puis nous vous souhaitons une superbe journée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On va enchaîner avec le groupe 5 qui a travaillé sur l'impact du numérique sur les outils de recrutement avec Léa, Cathy, Rachel et Siam.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Voilà. Alors, je vais laisser ma camarade de partager l'écran.
Alors, c'est bon. Alors, fiche de poste, offre d'emploi, entretien d'embauche. Ces mots vous parlent et vous font peut-être grincer des dents. Ce sont pourtant les outils de recrutement les plus plébiscités et sollicités par les recruteurs. Nous avons choisi, au travers de notre étude, de nous intéresser aux outils de recrutement et plus précisément à l'impact du numérique sur ces outils. Pour réaliser notre étude, il nous a tout d'abord fallu convenir d'une définition du numérique. Effectivement, nous avons chacun et chacune une conception à la fois semblable et différente du numérique. Ainsi, nous avons choisi de retenir la définition de l'Association française des managers de la diversité. Selon eux, le numérique renvoie à toute technologie faisant appel à des systèmes informatiques, soit l'ensemble des technologies de l'information et de la communication. Cela inclut le matériel, les logiciels, l'intelligence artificielle, les réseaux Internet, les robots et tout ce qui combine une ou plusieurs de ces technologies. Avant de réaliser notre étude, nous attendions à ce que certains éléments ressortent, tels que la place prédominante que prennent désormais les outils numériques dans leur travail, le gain de temps que le numérique aurait permis à ces professionnels du recrutement, la notion de discrimination ou bien encore le fait que le processus de recrutement peut éventuellement à terme être 100% dématérialisé. Autant de suppositions que nos entretiens nous ont permis de plus ou moins confirmer, comme vous le verrez par la suite. Ainsi, pour tenter de mesurer l'impact du numérique sur les outils de recrutement, dans un premier temps, nous verrons l'évolution des outils numériques et pour finir, nous nous intéresserons à l'avis des experts du secteur et aux avis que l'on a recueillis au travers d'un questionnaire que l'on a soumis sur LinkedIn. Je laisse maintenant la parole à ma camarade.
Alors, en effet, nous avons une évolution considérable du travail dans les ressources humaines, particulièrement au moment du recrutement. Nous sommes passés d'une période où le processus de classement des CV et la prise d'entretien étaient très longs et fastidieux, à aujourd'hui où la digitalisation des process est de plus en plus présente dans les entreprises. Auparavant, les méthodes de recrutement s'illustraient à travers la chasse de tête, que ce soit à l'extérieur ou bien dans différents annuaires, la prise de contact avec les cabinets de recrutement, le bouche à oreille ou bien même la publication des offres de travail dans les journaux. Ces éléments permettaient d'avoir des résultats fiables, mais c'était aussi très long et l'enjeu de ne pas se tromper était encore plus présent. Dans le contexte professionnel, 80% des entreprises reconnaissent avoir des difficultés de recrutement à trouver le profil qu'elles souhaitent intégrer ou constatent qu'on arrive à un essoufflement des méthodes traditionnelles de recrutement. Le métier évolue dans un contexte sociétal. Effectivement, nous sommes entrés dans l'ère de la communication et de la digitalisation. Il est extrêmement important de maîtriser son image en tant qu'employeur, avec tout ce qui est marque employeur et marketing RH, mais aussi en tant que candidat. Et ce contexte a un réel impact sur le recrutement et sur ses outils. On va plutôt avoir tendance à rechercher un profil ou une personnalité qui correspondra au poste, notamment avec le développement des réseaux sociaux professionnels. En effet, entre 2008 et 2018, l'utilisation de ce moyen de sourcing va bondir et devenir indispensable dans certaines entreprises. Parmi les outils digitalisés, beaucoup d'entreprises vont se servir des job boards tels que Indeed ou bien Welcome to the Jungle. L'utilisation des ATS aussi permet de gérer de façon optimale et automatisée le processus de recrutement dans son intégralité, de la création du recrutement à la diffusion des offres jusqu'au suivi de la gestion et la gestion des candidatures avec matching de CV pour déterminer la pertinence des candidatures reçues. Cette utilisation devient aussi indispensable car ils font gagner énormément de temps aux chargés de ressources humaines. Avec l'arrivée de la pandémie, nous avons pu observer une augmentation de la vidéo, notamment avec les visioconférences. La vidéo est de plus en plus présente, que ce soit du côté du candidat avec le phénomène des CV vidéo, car ils apportent un côté dynamique par rapport aux CV traditionnels et cela permet de voir les candidats et d'appréhender leur caractère. De même pour les entretiens vidéo différés dont j'ai pu en faire personnellement l'expérience. Aujourd'hui, nous connaissons le recrutement à travers LinkedIn, les forums salon virtuel, ou bien même les job matching.
Alors, comme a dit Siam, il y a une réelle évolution des outils de recrutement, dorénavant marquée par le progrès de l'intelligence artificielle. Donc, ceux-ci sont élaborés par l'homme, qui est doté d'une opinion, d'idées préconçues, et il se peut que ces outils ne soient pas aussi imperçus que l'on imagine. Donc, selon l'AFMD, l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques utilisées pour concevoir des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Il faut savoir que l'humain possède plusieurs fonctions et l'intelligence artificielle peut les reproduire. Ces fonctions sont celles que l'on peut voir sur le slide, telles que la perception, l'émotion, l'apprentissage, par exemple. Dans le domaine du recrutement, l'intelligence artificielle peut être utilisée afin d'automatiser certaines étapes du processus de recrutement, en passant par la rédaction de l'annonce, le sourcing, le tri des CV ou encore même l'entretien. À titre d'exemple, la création des chatbots. Il permet de dialoguer avec le candidat, analyse le CV et l'oriente vers le poste le plus en accord avec ses compétences. Donc on a relevé des avantages, par exemple le gain de temps, l'efficacité, trier les candidatures reçues, identifier les candidats demande du temps, notamment pour les grosses entreprises qui reçoivent un volume important de candidatures. On constate également une objectivité car elle est dénuée de préjugés que pourrait avoir un recruteur, mais cela nécessite un bon paramétrage de l'algorithme de l'intelligence artificielle. En effet, s'il y a un mauvais paramétrage, cela peut mener à des limites. On en vient donc aux limites de l'intelligence artificielle. Par exemple, la discrimination. À titre d'exemple, on a Amazon qui a développé en 2014 un algorithme pour des postes de développeurs informatiques, mais au vu de la prépondérance masculine sur ces postes, l'algorithme en a conclu que le CV d'un homme était meilleur que celui d'une femme. On a donc ici une discrimination. On peut également citer l'oubli des soft skills. L'algorithme reconnaîtra davantage les hard skills, donc les expériences et les diplômes, et ceci grâce aux mots-clés choisis au préalable par le recruteur. On peut également citer des profils clones qui ont l'air similaires. Donc ici, on peut voir une étude de Robert Walters. On peut constater qu'il y a des avantages et inconvénients qui reviennent le plus souvent du côté des recruteurs et des candidats. En avantage, on constate le gain de temps et en inconvénient, une déshumanisation.
Nous avons conduit 3 entretiens où nous avons questionné les personnes sur leur rapport aux outils de recrutement numérique. Shaïm Ekadori, Nicolas Bras, des chargés de recrutement, et une source anonyme qui est chargée de mission alternance. Rachel vous a parlé des différentes hypothèses que l'on avait émises et maintenant on va voir si elles se sont vérifiées. Les personnes que nous avons interviewées ont témoigné d'une évolution des outils de recrutement, l'abandon progressif des pratiques plus classiques comme la chasse à main nue, le recrutement en agence, les entretiens physiques vers des méthodes plus digitalisées comme l'entretien en visioconférence, le sourcing via des CV tech ou des job boards ou l'utilisation d'ATS. On constate la même chose côté candidat, la dépose de CV via les réseaux sociaux professionnels, non professionnels, les job boards, etc. Et la technique de recherche d'emploi la plus utilisée actuellement au détriment de la dépose de CV sur place, en entreprise ou en agence. Les outils de recrutement évoluent, mais aussi certaines pratiques qui pourtant ne sont pas liées au numérique. On pense à la prospection sur terrain. En effet, les salons et les forums sont des méthodes de plus en plus utilisées et très efficaces. Le gain de temps et la flexibilité sont les avantages les plus mentionnés concernant l'utilisation des outils de recrutement numérique. L'entretien en visioconférence, un exemple très cité, est tout aussi efficace qu'un entretien en face-à-face, bien que la visite des locaux et la rencontre des personnes en vrai est importante pour l'expérience candidat. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, elle aurait aussi un avenir dans le processus de recrutement, dans le sens où elle aussi permet un gain de temps, notamment pour la présélection. Et là aussi, ce gain de temps qu'apporte l'intelligence artificielle doit être utilisé à bon escient, à savoir une qualité de la relation candidat-recruteur. Cependant, le risque qui est souvent revenu est la déshumanisation du processus de recrutement. Et nous avons pu constater, grâce à notre questionnaire, que cette vision est aussi partagée par les candidats. Cathy vous a montré un graphique il y a quelques minutes sur la vision de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et nous avons obtenu avec notre questionnaire des résultats très similaires, à savoir le risque de déshumanisation en premier, suivi de la sensation de ne pas montrer pleinement ses compétences, le gain de temps, et enfin la diminution du risque de se tromper. Enfin, malgré le fait qu'aucune de nos questions était orientée sur le thème de la crise sanitaire et du Covid-19, les personnes interviewées en ont parlé d'elles-mêmes via l'augmentation de l'utilisation d'outils numériques d'aide au recrutement, notamment l'organisation d'un entretien d'embauche à distance.
Bien que nos entretiens se soient relativement bien passés, ils comportent certaines limites. Les personnes que nous avons choisi d'interviewer se situent plus ou moins Dans la même là j'ai induit une autre limite. Les recruteurs n'ont ainsi pas vu le avant-après la révolution numérique, étant donné qu'ils sont rentrés en 2016 en fonction, lorsque la plupart des outils étaient numérisés. Pour pallier ces limites, nous avons choisi de réaliser un questionnaire sur LinkedIn, mais encore une fois, ce questionnaire comporte son lot de limites, notamment dû à l'âge des participants. 66% des participants se situent dans la tranche d'âge des 21-30 ans et la plupart des répondants étaient des étudiants.
Pour conclure, les outils de recrutement ont énormément évolué. Le numérique a eu un réel impact sur ces outils puisque maintenant on en vient à travailler avec l'intelligence artificielle. On a tout de même constaté des opportunités comme un gain de temps, mais aussi des risques, une discrimination, des humanisations. Ces arguments ont été appuyés par les propos des personnes que l'on a interviewées. Et d'ailleurs, nos entretiens et notre sondage ont également pu confirmer nos hypothèses. On peut se demander un jour si les recruteurs seront remplacés par des robots.
Merci.
Merci beaucoup. Nous allons passer au groupe 3 qui a travaillé sur l'influence numérique sur la stratégie et la pratique du recrutement avec Océane, Blandine, Maëva et Fiona.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran ?
Oui.
Ok, super.
Ok, donc du coup, aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet de mini-mémoire, le recrutement et la numérisation. Dans le cadre de notre recherche, nous avons centré notre analyse sur le recrutement, sa stratégie et ses pratiques. Le recrutement est l'un des domaines d'activité de la fonction RH qui a connu la plus forte expansion en termes de solutions digitales. On utilise même le terme de recrutement numérique ou de e-recrutement. Notre étude aura pour objectif de rendre compte de l'influence du numérique sur le recrutement et pour ce faire, il s'agira de voir dans quelle mesure les solutions numériques ont permis de transformer la stratégie et la pratique du recrutement afin de l'enrichir et de l'optimiser à tel point que l'on parle aujourd'hui de e-recrutement. On va alors commencer par définir les termes de digitalisation et de numérisation. Le terme numérique provient du latin numerus, qui veut dire nombre. Cependant, dans le langage courant, l'utilisation du mot numérique ne renvoie pas directement à ce terme. Le développement de l'emploi du mot et sa valeur sociale et culturelle ont été déterminés avant tout par la naissance et la diffusion d'Internet. Le numérique est une culture à part entière fondée sur l'informatique, mais qui la dépasse parce qu'elle se retrouve dans tous les domaines de la société, aussi bien public que privé. Le digital, quant à lui, provient du latin digitus, et c'est le mot qui est utilisé par les autres langues pour définir le numérique. Il n'y a qu'en français qu'on distingue les deux termes. On a donc décidé d'utiliser ces deux termes dans le même sens. Dans une première partie, du coup, on vous parlera de la façon dont on a construit notre mémoire et nos entretiens, puis dans un second temps, l'analyse des entretiens, et enfin, la relation entretien et théorie.
Alors maintenant, je vais poursuivre du coup en vous parlant de mémoire et des entretiens en particulier. Donc, pour enrichir notre recherche sur la transformation du recrutement par le numérique, on a décidé de faire des entretiens en complément de nos recherches théoriques. Nos entretiens, ils nous ont permis d'obtenir des réponses concrètes qui émanent directement de professionnels du recrutement, qui sont confrontés au quotidien aux thématiques du recrutement et du numérique. Alors, j'ai un petit problème de diaporama, il veut passer les slides. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais du coup vous présenter brièvement les quatre personnes interviewées que l'on a anonymisées. Du coup, la personne A, elle est chargée de recrutement dans une société de courtage en assurance. Elle a obtenu un DUT option RH et un Master Management des organisations et développement responsable. Elle fait de la gestion du personnel à l'Université de Montpellier et dans son entreprise actuelle, elle occupe un double poste à la fois dans le recrutement et dans la formation. Toutes nos interviewées, elles s'occupent du processus de A à Z, de la définition du besoin à la proposition d'embauche avec une partie administrative, avec la rédaction des contrats et les divers courriers. Notre interviewée B, elle est Talent Acquisition Partner dans une société entièrement dédiée à la transformation numérique. Elle a un master en droit des affaires et elle a aussi intégré un cabinet de recrutement en tant que chasseuse de tête. Notre interviewée C, elle est chargée de recrutement et campus management dans une société d'aéronautique. et elle a également travaillé dans d'autres domaines RH comme les conditions de travail et démarches QVT, formation et paye. Notre dernière interviewée, elle est chargée de recrutement au sein d'un éditeur de logiciels et avant, elle a aussi travaillé en tant que chargée de recrutement dans d'autres entreprises. Pour des raisons pratiques, nos entretiens se sont déroulés soit sur le lieu de travail ou dans un bureau en visioconférence et on a mené des entretiens semi-directifs où nous avons guidé les entretiens à travers de grandes questions et le but c'était de les laisser réfléchir et s'exprimer sans retenue pour rebondir sur leurs propos et avancer l'entretien. Notre grille, elle était constituée d'une première partie dédiée à la présentation de la personne, de son poste, son parcours et ses missions, des questions vagues sur le numérique pour avoir leur définition du numérique. Et la dernière partie, centrée sur le numérique dans le recrutement avec ses impacts, avantages, limites et évolutions.
Donc maintenant, le lien entre les différents entretiens qu'on a pu faire. On a demandé à nos intervenants de définir le digital. Donc voici ce qui en ressort. Le digital, c'est quoi? C'est la dématérialisation des biens et services. C'est quelque chose qu'on ne peut toucher. Ça efface les interactions physiques petit à petit. C'est la création de nouveaux outils de travail. Ça facilite la vie de manière générale. Et derrière le numérique, il y a une idée de rapidité. Les questions que nous avons posées à nos intervenantes ont permis d'être éclairées sur leur idée de la digitalisation des process de recrutement au sein de leur entreprise. De manière générale, leur idée concordait. Cependant, un petit désaccord était visible, notamment sur notre intervenante B ne pense pas que la crise Covid ait réellement impacté la digitalisation du recrutement. Car le numérique était déjà bien utilisé dans l'entreprise avant le Covid. Il en est autrement pour nos intervenantes A&D qui ont vécu le contraire au sein de leur entreprise et qui ont vu le numérique s'intégrer de manière exponentielle depuis le Covid. Donc voici les inconvénients et les avantages qui sont ressortis lors de nos entretiens. Les avantages de la digitalisation du recrutement, c'est quoi? C'est un gain de temps, c'est plus d'efficacité. C'est un confort du point de vue des déplacements et une prise de contact plus rapide. Les inconvénients, à contrario, c'est la perte du relationnel avec les managers, les candidats et les nouveaux collaborateurs. C'est une intégration des candidats qui va être différente. La modification du métier de recruteur, forcément. Et une difficulté à percevoir la personnalité, la gestuelle, la façon de parler, etc. du candidat. En ce qui concerne l'avenir du recrutement, nos interviewés pensent qu'un retour en arrière sera difficile. Le recrutement est dorénavant associé au numérique. Cependant, il y a une volonté de retour en présentiel. Elles pensent également que le numérique va continuer à évoluer et va déboucher sur un développement de l'intelligence artificielle.
Donc, ensuite, on a voulu faire un lien entre la théorie et les résultats qu'on a obtenus. Donc le constat qu'on a pu faire, c'est qu'on remarque une adéquation entre ce qu'on a obtenu et les recherches théoriques et ce qui est présenté dans les ouvrages. Donc la digitalisation, elle s'observe bien à toutes les étapes du recrutement, mais on a pu remarquer qu'elle s'instaure principalement à trois étapes, donc le sourcing, les entretiens et l'intégration. Donc pendant le sourcing, on a bien l'utilisation des job boards, du SIRH et des CV Tech, donc ça colle bien entre ce que nos enquêtés ont pu nous dire et ce que nous, on a pu lire dans nos recherches. Également, pour l'entretien, bien évidemment, même avant Covid, on utilisait tout ce qui était les supports numériques avec les outils de visioconférence. Et enfin, pour l'intégration, dans les ouvrages, c'est un petit peu moins mis en avant, mais les enquêtés ont bien insisté sur le fait que l'intégration, désormais, se passe pour une grande partie à distance. Donc, on a pu une intégration physique, mais malheureusement en distanciel. Donc, comme le précisent les auteurs et les recherches sur ce sujet, la digitalisation permet bien une rapidité et une efficacité et c'est bien appuyé par nos enquêtés. C'est plus flexible, l'information va plus vite. Donc, elles le confirment et c'est bien l'avantage principal que présente la digitalisation. Mais elles mettent également en avant des limites, qui est notamment la perte de relationnel et la déshumanisation du processus. Donc, on a pu le lire dans les articles et les ouvrages qu'on a consultés, mais c'est vrai que pendant les entretiens, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti et qui était beaucoup plus fort, on le ressentait de façon plus forte. les quatre enquêtés ont dit la même phrase à la même question, c'est vraiment la perte de relationnel qui est le point négatif.
Donc du coup, pour conclure, cette étude avait pour principal intérêt de mettre en avant la façon dont le numérique est venu transformer progressivement une fonction essentielle dans les ressources humaines. Finalement, la pandémie mondiale du Covid-19 aura permis d'accélérer la digitalisation du recrutement. Ainsi, les intelligences artificielles sont de plus en plus démocratisées. Seulement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'utiliser ces outils sans supervision humaine. Cette crise sanitaire parsemée de confinement nous aura permis de se rendre compte d'une chose: l'humain reste nécessaire et numérique dans le recrutement ne doit rester qu'une aide et qu'un appui. En effet, même si ces nouveaux canaux de recrutement sont l'avenir du monde du travail, ils ne pourront remplacer l'humain mais l'aideront au niveau de la rapidité et de la facilité. Il est maintenant inconcevable de rechercher un candidat ou de diffuser une offre d'emploi sans le digital, car les sites d'annonces en ligne sont dorénavant les premiers outils digitaux RH utilisés par les recruteurs, mais aussi par les candidats. Cette digitalisation ne doit donc pas prendre le pas sur les relations humaines, mais elle doit contribuer à créer un lien plus humain entre les entreprises et les candidats. Il faut aussi mettre en avant que publier des annonces pour recruter ne suffit plus. Il faut aussi savoir attirer les candidats, notamment en soignant sa marque employeur sur Internet en externe pour contribuer à son e-réputation, mais aussi à l'interne pour fidéliser les salariés. On peut alors se demander: que peut-on apporter comme changement digital majeur à l'entreprise pour faire évoluer l'image de marque avec son temps?
Merci beaucoup. Et pour finir, nous allons terminer avec le groupe 1, Julien, Yacine et Julien. Leur dossier porte sur l'impact de l'évolution numérique sur la cybersécurité.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Est-ce que vous voyez bien mon écran?
Oui.
Ok, super, on va y aller. Donc au cours de ce module d'analyse du travail, on a été en charge de réaliser un mini mémoire. On a choisi de travailler sur le thème de la sécurité de l'information au sein des entreprises. Donc pour vous faire une petite introduction, comme vous le savez tous, le numérique est quelque chose qui est omniprésent dans notre société. Aujourd'hui, 67% de la population mondiale utilise un smartphone, ou encore 4,5 milliards de personnes sont considérées comme des internautes. Donc le numérique est une notion qui évolue très rapidement, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Et déjà, même quelques années auparavant, les auteurs avaient déjà une idée de ce qui allait pouvoir devenir le numérique avec cette évolution. Donc notamment George Orwell dans son livre, son récit d'anticipation 1984. Et donc les entreprises doivent s'adapter aux nouvelles méthodes de travail avec les ordinateurs, le télétravail, etc. Et donc on s'est posé la question de savoir quel était l'impact de l'évolution du numérique sur la sécurité informatique au sein des entreprises.
Pour répondre à cette question, nous présenterons un premier temps le cadre théorique avec une définition de la cybersécurité, les principales cyberattaques et les sources du dossier. Dans un deuxième temps, nous allons évoquer nos hypothèses. Nous continuons ensuite par les enquêtes que nous avons menées avec les résultats par entretien, puis finalement une analyse globale, et nous conclurons avec des préconisations et une discussion générale sur le sujet.
Alors, la cybersécurité, c'est un concept ou une pratique informatique visant à protéger le système et les données numériques des utilisateurs contre les cyberattaques ou des attaques quelconques liées au numérique. Alors là, je vais vous donner les principales cyberattaques qu'on a relevées. Donc on a le phishing, qui consiste à l'envoi d'emails frauduleux et en apparence et la mise en forme d'un véritable mail provenant d'une société qui est connue. Cette mise en œuvre permet via cet email de soutirer les coordonnées bancaires et toutes les informations personnelles de la victime pour contrôler, pirater ou vendre les données existantes que l'on a transmises sur certains sites. Ensuite, on a le ransomware, qui est une technique consistant à l'intrusion et à l'installation d'un logiciel malveillant visant à transférer tous les fichiers et les coordonnées présents sur l'ordinateur de la victime et permettant au hacker de demander une rançon en échange des fichiers volés. Ensuite, on a les malwares permettant d'installer un logiciel malveillant afin de détruire informatiquement les outils aussi bien d'une entreprise que d'un particulier. Un des derniers exemples en date du malware est le Flubot. En fait, le 18 octobre 2021, David Moffredini écrit un article et où il nous donne en fait le malware le plus innovant qui a été créé. En fait, il touche les smartphones Android et fait croire aux utilisateurs que ce dernier a été infecté par un logiciel nommé Flubot. Le malware qui est Flubot propose donc à l'utilisateur d'installer une fausse mise à jour comprenant cette fois le vrai malware, et c'est à ce moment-là que l'utilisateur se fait pirater son outil numérique. Ensuite, on a l'attaque Man in the Middle, aussi appelée l'attaque de l'homme du milieu en français, consiste à ce qu'un hacker s'immisce entre deux entités communicantes afin d'intercepter leur échange, ainsi pouvoir subtiliser les données, aussi bien les données bancaires que les données personnelles. Alors ensuite, on a eu pas mal de sources pour réaliser notre mini mémoire. On a lu le livre de, est-ce que je peux revenir juste à la slide d'avant, merci. Le livre de Nicolas Arpagnan qui s'intitule La cybersécurité. On a visionné pas mal de vidéos réalisées par la Hack Academy, et on a eu l'occasion de lire pas mal d'articles et différents journaux présents sur Internet.
Nos hypothèses qui ont été émises sont une première qui concerne le risque lors de la connexion à un réseau Wi-Fi extérieur qui sont souvent non sécurisés, pour citer les aéroports, le Wi-Fi extérieur le plus connu. Une augmentation du niveau de sécurité informatique due à la numérisation et au stockage des données numériques. L'évolution perpétuelle du numérique entraîne un problème de suivi d'adaptabilité pour les entreprises. Et c'est tout.
Donc maintenant, on va passer aux entretiens. On va vous les présenter brièvement. Donc voici notre grille d'entretien dont on s'est servi pour réaliser ces 4 entretiens qui, vous le verrez par la suite, seront anonymisés. Nous avons mis des noms juste pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc voilà, on a décidé de réaliser cet entretien avec 3 grandes parties quand on a réalisé l'entretien. Donc le bouleversement, on a voulu avoir les avis des enquêtés sur le bouleversement numérique, sur les enjeux de la sécurité informatique au sein de l'entreprise, et enfin sur les prochains combats liés à la sécurité informatique. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, on a réalisé 4 entretiens qui vont être anonymisés, hein, les noms ne représentent pas, mais en revanche, ce sont leurs vrais postes. Donc, sur ces 4 entretiens, on avait une personne qui était expert dans la sécurité informatique, donc qui était responsable de l'infrastructure réseau, sécurité et système chez Yamaha Motor Finance. Et donc les phrases que vous allez voir en dessous de chaque poste et de chaque nom des personnes, c'est la définition du numérique que ces personnes nous ont donnée en fin d'entretien. Donc pour la personne qui a été experte en sécurité informatique, pour lui le numérique c'est la sécurisation des systèmes d'information ainsi que la numérisation de beaucoup de systèmes électroniques.
Dans ce second entretien, nous avons un responsable co-assurance chez Allianz avec comme définition le numérique correspond à tous les outils sur les ordinateurs. Un point sur cet entretien, nous avons une personne qui est très peu concernée par la cybersécurité dans son entreprise. Yacine.
Il y a un problème de réseau, donc je vais le faire assez
facilement.
Donc ensuite, on a interrogé une maîtresse de conférence au sein de l'INSHEA à Suresnes. Et donc pour elle, le numérique est ce qui est informatique, ce qui est fait par et grâce aux ordinateurs. Et du coup, il y a vraiment un côté réseau très important. Et enfin, le dernier entretien.
Et finalement, nous avons quelqu'un qui occupe le poste de Master Data chez L'Oréal avec une définition numérique. C'est le numérique correspond aux outils informatiques, aux data et à Internet. Un petit point sur cette personne, quelqu'un qui est à l'opposé de notre deuxième enquête, qui est impliqué au sein de son entreprise dans la cybersécurité et est vraiment acteur de la cybersécurité au sein des collaborateurs.
Donc avec ces 4 personnes, vous voyez qu'on a vraiment voulu avoir une diversité dans nos entretiens, avec des personnes qui sont plus ou moins très proches de la sécurité informatique au sein des entreprises, mais on voulait aussi l'autre vision, avec des personnes qui ne sont pas de base concernées par cette sécurité informatique directement. Donc ensuite, on a décidé de vous mettre tous les verbatims les plus importants, donc en 3 catégories, avantages, risques et les opportunités. Et donc, pour les avantages, comme vous pouvez le voir, l'entretien numéro 1, avec la personne experte en cybersécurité, on voit qu'il n'a rien mieux à nous dire, parce que, comme vous allez voir juste après, cette personne avait une vision, on va dire, très très pessimiste par rapport à son travail, avec ce qu'il fait face tous les jours dans son travail. Yacine, je sais pas si tu es revenu.
Ouais, je suis là, en fait, j'ai un petit problème de micro. Là, comme vous pouvez le voir, on a pareil, on reste toujours sur l'impact du numérique sur la cyber, sur la sécurité informatique au sein des entreprises. On a choisi comme catégorie cyberattaque, protection des données et surveillance. Et là, on peut voir, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus de verbatim par rapport au premier tableau. Et voilà.
Et enfin, donc la dernière catégorie qui est le numérique avec la définition et l'évolution. Là encore, pour ne pas tout vous citer, mais on voit que la personne qui est experte en sécurité informatique a des notions beaucoup plus précises que les autres personnes qui ne sont pas forcément dans la sécurité informatique au sein de leur entreprise. Donc on va maintenant passer à la conclusion.
Pour conclure, je vais faire un petit point sur la conclusion. Ce qui est ressorti de ces entretiens, c'est qu'on a vraiment des personnes qui vont être impliquées dans la cybersécurité, des personnes qui vont réaliser les formations qui sont proposées par leur entreprise et qui vont vraiment tenir compte de toutes les préconisations et qui vont même être acteurs dans justement leur... qui vont même être acteurs dans au sein de leur entreprise, alors qu'à l'opposé, on a des personnes qui vont passer très rapidement sur les formations et qui ne vont pas du tout tenir compte de la cybersécurité. On sait d'ailleurs que ces personnes-là sont majoritaires et que les représentants en cybersécurité dans les entreprises en sont conscients. Nous avons certaines préconisations que nous avons déduites à la fin de notre mémoire. La première sera vraiment la sensibilisation des équipes à la sécurité, à la cybersécurité, avoir des équipes dédiées, ce qui est souvent le cas dans certaines entreprises. Nous avons aussi un devoir de formation, de se tenir à jour sur toutes les nouveautés, parce qu'on sait que la cybersécurité, le numérique, est un sujet qui évolue rapidement. Et finalement, un devoir de formation des équipes qui est essentiel, car ce sont par les collaborateurs que vont passer les premières qui sont la première porte d'entrée.
On va s'arrêter là pour qu'on ait un tout petit temps pour les questions.
Voilà, de toute façon, c'était vraiment juste à la fin reprendre un petit peu les termes qui ont été abordés. Et, voilà, c'était tout. Merci.
Merci. Merci.
Merci. Merci à vous, merci à toutes et tous les étudiants du M1 GSRH numérique. Je vais vous poser deux petites questions que les étudiants en Master 2 ont réfléchi et vous ont posées. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je m'intéresserai au premier groupe qui travaille sur la cybersécurité. Selon vous, est-il nécessaire d'intégrer une conscience de la cybersécurité dans la culture d'entreprise? Donc, avez-vous une réponse rapide à nous donner?
Oui, rapidement. Comme on l'a vu dans notre exposé, on voit qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus récurrent que les entreprises se fassent cyber-attaquer. Et ça passe justement par des employés, on va dire, lambda de l'entreprise. Donc, ça devient de plus en plus important de les former à lutter contre ces cyberattaques.
Merci. Et une dernière question pour le groupe 2, perception du numérique à travers la comparaison d'un secteur digitalisé et un secteur nouvellement digitalisé. Selon vous, quels sont les secteurs qui ne sont pas encore digitalisés? Pourquoi? Et est-ce que cela va le devenir?
Oui. Alors, dans notre étude, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de secteur qui n'était pas encore digitalisé. De notre côté, on n'en a pas trouvé parce que même, en fait, en essayant de chercher un secteur qui n'est pas encore digitalisé et qui s'est accéléré durant, qui a dû s'adapter en fait pendant la crise sanitaire, on a trouvé l'enseignement. Forcément, on le vit tous les jours avec du coup les outils du numérique et les nouvelles manières de travailler à distance pour les enseignants et les étudiants. Et aussi le secteur du médical. On a pu interroger un opticien. Donc pour lui, le télétravail, c'est pas possible pour le moment. Mais on sait très bien que sur Doctolib, il y a des téléconsultations. Donc il n'est pas exclu à l'avenir que même dans les secteurs où le numérique est peu présent, qu'il le devienne davantage avec le temps. Et on a surtout vu aussi un tableau de Fayon et Tartar qui nous dit que les besoins en technologie selon les secteurs seront de plus en plus forts, notamment le très haut débit, la 5G dans la médecine, comme je viens d'exposer, et puis l'intelligence artificielle, notamment dans les secteurs de la défense et l'énergie. Donc, on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'il y a des secteurs qui sont totalement exclus du numérique, selon nous.
Très bien, merci. Et une dernière question qui est apparue dans le chat. Quelles seraient les modalités pour sécuriser ces données informatiques et comment être sans cesse en veille sur les nouveautés digitales ? Je laisse les deux Julien et Yacine y répondre.
Oui, donc pour répondre à la première partie de la question, les modalités pour sécuriser ces données informatiques, on va dire que ce qui est le plus souvent mis en place dans les entreprises, on n'a pas eu le temps, on va dire, de l'évoquer juste avant, c'est souvent la mise en place de coffres-forts de mots de passe. C'est-à-dire que les entreprises ont remarqué que les mots de passe que mettaient les employés au sein de l'entreprise étaient beaucoup trop simples. Donc ce qu'ils ont créé, en fait, c'est un coffre-fort où on range tous les, où on n'a pas à se souvenir de tous les mots de passe qu'on met sur l'ordinateur de l'entreprise, mais on va retenir un seul mot de passe qui est dans la logique extrêmement compliqué pour, une fois ce mot de passe rentré sur le coffre-fort, avoir accès à tous les autres mots de passe et donc finalement ne retenir qu'un seul mot de passe mais qui est beaucoup plus compliqué à hacker que une dizaine de mots de passe tous très simples ou alors tous similaires. Et donc la deuxième partie de la question, comment être sans cesse en veille sur les nouveautés digitales? Ça, c'est quelque chose qui est compliqué, on va dire, pour les petites et moyennes entreprises, parce que c'est ce qu'il faut faire pour être toujours en veille, c'est d'avoir une équipe qui y est dédiée. Et donc, par exemple, dans les personnes qu'on avait interrogées, nous, justement, la personne qui travaille chez Yamaha Finance, dès qu'elle est arrivée, a mis en place une équipe pour faire une veille digitale, pour être absolument au courant de toutes les nouveautés en matière de sécurité informatique. Mais chez les petites, ça a un coût. Et c'est pour ça que les petites entreprises, finalement, elles ont beaucoup de mal à le faire.
Merci beaucoup. Un grand merci à vous tous.
Merci à tous. Je passe la parole à Catherine.
Merci Eric. Alors je voulais juste préciser en matière de cybersécurité que ça ne concerne pas uniquement le secteur privé, puisque les administrations sont aussi la cible de très nombreux piratages informatiques actuellement par rapport donc à toutes les données qu'elles concernent. Et je voulais signaler aussi l'adoption d'une proposition de loi sur l'instauration en 2023 d'un cyberscore sur les sites qui génèrent le plus de trafic Internet, et qui permet donc d'informer les internautes sur le niveau en fait de sécurité de leurs données. Et peut-être que ce cyberscore sera élargi à tout le secteur privé dans le cadre justement de la politique, de la stratégie en fait des entreprises. En tout cas, je voulais féliciter Eva et féliciter tous les étudiants. Merci à ceux qui nous écoutent, très nombreux, pour leur bienveillance à leur égard. Je vous rappelle que ce sont des étudiants en quatrième année, et qui sont pas du tout habitués à cet exercice, et donc je les félicite encore une fois. Alors, désormais, nous allons donc passer au sujet de l'application numérique dans le monde judiciaire. La crise sanitaire a notamment conduit le ministère de la Justice à relever considérablement le niveau de ses équipements afin d'assurer évidemment la continuité du service public de la justice. Ce ministère a donc augmenté les capacités de connexion du réseau des ministères, des tribunaux, a modernisé l'accès aux applicatifs métiers des professionnels donc de la justice, puisque depuis mai 2021, 100% des juridictions civiles ont accès à leur logiciel métier. Et bien évidemment, le ministère a lancé différentes expérimentations de nouveaux applicatifs. Et je donne la parole immédiatement à Félicie Calipel et Delphine Denebourg, que je remercie très sincèrement pour la présentation d'une application qui s'appelle donc Mon Suivi Justice. Et je laisserai donc les intervenantes, si elles le veulent bien, se présenter à nouveau. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour la parole. Je ne sais J'ai un écho. Est-ce que vous m'entendez
bonjour.
Bien? Donc bonjour, Félicie Calipel, moi je suis magistrat, secrétaire général adjointe de la présidente de Nanterre et je suis intrapreneuse de la start-up d'État Mon Suivi Justice que nous allons vous présenter aujourd'hui avec Delphine de Neubourg. Delphine, je te laisse te présenter.
Donc Delphine de Neubourg, je suis la directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine et intrapreneuse avec Félicie de la start-up d'État Mon Suivi Justice.
On a prévu de vous passer donc une présentation pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une start-up d'État, puisque c'est un concept assez récent et assez nouveau. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible pour vous.
Je ne sais pas si on voit mon écran.
Oui, c'est bon, il faudrait juste que tu mettes en plein écran. Donc, Mon Suivi Justice, c'est la première start-up du ministère de la Justice. Et depuis la création de celle-ci, deux autres start-up ont été créées au ministère de la Justice. Et de nombreuses start-up d'État existent dans d'autres ministères. Concernant le concept de start-up d'État, vous pouvez constater que quatre piliers gouvernent le fonctionnement de ce type de structure. Et l'idée, c'est de créer un service numérique en orientant complètement tous les efforts vers les besoins des usagers avant ceux de l'administration. Ce qui est quelque chose assez innovant pour le ministère de la Justice, puisque dans notre cas, nous allons travailler en fonction des besoins des usagers qui sont des personnes condamnées et donc des usagers contraints du service public. Et on réfléchit toujours en fonction de leurs besoins et non ceux des agents. Avec un fonctionnement qui est celui de l'amélioration continue, c'est-à-dire que nous mettons très rapidement à disposition l'outil tel qu'il existe avec ses qualités et ses défauts, et c'est par l'utilisation qui est faite par les utilisateurs que nous allons améliorer les fonctionnalités et faire évoluer l'outil. Le pilotage se fait essentiellement par l'impact. Peu importe les moyens qui sont mis à disposition, ceux-ci sont adaptés à l'impact que peut avoir le produit. C'est-à-dire que dès lors qu'une fonctionnalité est mise en place, si elle n'a pas d'intérêt, si elle n'a pas d'impact et si elle ne modifie pas le problème qu'on a identifié, c'est une fonctionnalité qui peut être abandonnée. L'idée, c'est vraiment de limiter au maximum les tâches inutiles et de ne faire que des choses qui sont véritablement utiles pour le problème qu'on cherche à résoudre. Et autre particularité d'une start-up d'État, c'est qu'elle fonctionne avec une équipe dédiée autonome. On vous présentera au cours de la présentation notre équipe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment cette autonomie de l'équipe. C'est-à-dire que, alors que Delphine et moi, on est dans une administration et qu'on s'inscrit normalement dans un rapport hiérarchique de validation de ce qu'on fait dans nos fonctions, pour ce qui est des travaux de la start-up d'État, on fonctionne de manière totalement autonome et c'est l'équipe qui décide comment on travaille, qu'est-ce qu'on décide de créer, de mettre en place, où est-ce qu'on décide de le mettre en place. Et toutes ces décisions sont prises au sein de l'équipe et ne dépendent pas de nos hiérarchies respectives. Donc, une start-up d'État, c'est une durée de vie qui est assez limitée dans le temps, puisque, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on est sur un cycle de vie très très sectionné et qui commence par une investigation qui dure 9 à 12 semaines. Dans notre cas, elle a été faite à l'automne 2020. Et lors de cette investigation, on vérifie le problème qu'on a identifié. On le vérifie par tout moyen, sur le terrain, en s'entretenant avec les agents publics, avec les usagers, en faisant des tests, en essayant de vérifier que le problème qu'on avait identifié est bien un problème réel. Dans notre cas, le problème qu'on avait identifié, c'était celui de l'absentéisme aux convocations devant les juges d'application des peines et devant les conseillers d'insertion et de probation. Et donc, pendant cette phase, on a fait des statistiques, des vérifications et des essais pour vérifier le problème. Ensuite, le ministère de la Justice a validé le principe de la création d'une structure d'État et nous sommes actuellement dans la phase de construction, plus précisément dans la deuxième phase de construction. Et la suite de cycle de vie de cette start-up sera donc la phase d'accélération, c'est-à-dire la mise en place de l'outil numérique dans de plus en plus de services au niveau national, dans la perspective qui est toujours celle du transfert à l'administration, c'est-à-dire que la start-up d'État fonctionne selon toutes les règles que je vous ai indiquées, dans un but de transfert au ministère, c'est-à-dire qu'il l'a financé, qu'il l'a accompagné, pour pouvoir ensuite faire sortir l'équipe de projet et pérenniser les travaux qui ont été menés. Donc, comme je vous l'indiquais, notre problème, c'était celui de l'absentéisme aux personnes placées sous main de justice. Dans le cadre de notre investigation, on a pu identifier que dans les Hauts-de-Seine, on avait un rendez-vous sur trois qui était manqué, ce qui représente 9000 rendez-vous manqués chaque année. Le problème est donc réel, majeur et actionnable, qui sont les trois conditions pour que Beta.gouv accepte d'accompagner la création d'une start-up d'État et a fortiori un ministère de financer un tel projet. Dans notre cas, c'est un problème majeur, puisque dans le 92, je vous l'ai indiqué, 9000 rendez-vous manqués, ce qui consiste à, généralement, ces personnes sont reconvoquées pour leur donner une deuxième chance, et ce temps de reconvocation mobilise 2,5 personnes à temps plein sur le département pour reconvoquer les gens. C'est donc un temps très important qui est utilisé pour pallier à cet absentéisme et donc nous avons dans le cadre de cette investigation fait des tests et envoyé des SMS le rappel de convocation pour les personnes qui manquaient pour toutes les personnes qui étaient convoquées devant le service de l'application des peines ou devant le SPIP et les tests ont été concluants puisque les statistiques que nous avons tenues nous ont permis de vérifier que les SMS permettaient d'augmenter la présence au rendez-vous et donc de résoudre au moins en partie notre problème. Alors, les causes du problème dans le cadre de l'investigation, elles ont été identifiées et elles sont multiples. Vous le savez, dans un tribunal, la dématérialisation est assez éloignée et on est encore sur un mode de convocation par courrier avec une déperdition du courrier et de la transmission à la bonne adresse qui peut être problématique. Également, la difficulté qui a été identifiée, c'est celle pour les personnes condamnées de contacter le SPIP ou le tribunal pour avertir d'un problème ou expliquer pourquoi ils ne peuvent pas se présenter et donc solliciter un report de leur entretien. Et n'arrivant pas à prévenir, généralement, ils ne viennent pas au rendez-vous. Donc, ça fait partie des causes de l'absentéisme. Également, le manque d'accessibilité. C'est-à-dire que, bien évidemment, notre hypothèse de rappel des convocations ne nous permettra pas de faire venir toutes les personnes condamnées, puisque certains sont de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, et ceux-ci, on va avoir plus de mal à les faire venir. En revanche, on a souhaité mettre à leur disposition cet accompagnement par le rappel des SMS et créer également des outils pédagogiques pour leur permettre de mieux comprendre leur peine et pouvoir, en dehors des temps où ils sont avec un magistrat ou un conseiller d'insertion et de probation, de pouvoir se renseigner sur leur suivi et voir comment le suivre du mieux qu'ils peuvent. L'équipe a été constituée donc depuis le printemps dernier, donc Delphine et moi qui sommes intrapreneuses. On est accompagnés par un coach, Baptiste, qui lui nous aide à faire un petit peu ce pas de côté, puisque on travaille, Delphine et moi, dans un contexte professionnel très différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent et de nos habitudes de travail. Donc lui, son travail, c'est vraiment de nous apprendre à travailler selon cette méthodologie. Nous avons recruté 2 développeurs qui travaillent à la conception numérique de l'outil, et 2 chargés de déploiement qui, eux, vont être au contact véritablement des utilisateurs pour faire remonter les besoins selon la méthodologie que va vous présenter Delphine.
Alors du coup, pour continuer cette présentation, je pense que vous l'avez compris, c'est que dans les startups d'État, on part pas de la solution, d'un produit, mais on part plus d'un problème. Et pour répondre à ce problème de l'absentéisme des personnes au rendez-vous judiciaire, aux convocations judiciaires, notre première proposition de valeur, c'était ce qu'on avait imaginé d'ores et déjà au cours de l'investigation, c'est une solution de rappel des rendez-vous par SMS, en se disant que si une personne, on lui rappelle son rendez-vous, un peu comme Doctolib le fait pour les rendez-vous médicaux, elle aura davantage de chances de se présenter au rendez-vous et donc de ne pas oublier son rendez-vous. Avant, c'était une démarche de convocation qui prenait du temps. On a calculé auprès des utilisateurs, des professionnels, cette démarche de convocation qui prenait entre 5 à 9 minutes en fonction du type de convocation, puisqu'il y a des convocations qui sont plus ou moins simples, vous voyez, à faire, donc allant de la lettre simple, au SPIP, jusque par exemple la convocation par officier de police judiciaire. Donc c'était entre 5 et 9 minutes, surtout il n'y avait pas d'organisation de service, donc ça veut dire que chaque agent pouvait faire les convocations, des modalités qui lui sont propres. Et par exemple, on a certains agents qui faisaient des rappels de convocation par SMS, mais ça restait vraiment à la marge. Désormais, chaque convocation qui est envoyée au public suivi fait l'objet d'un processus de rappel de convocation par SMS, c'est-à-dire que d'abord, la personne reçoit un SMS de confirmation du rendez-vous de la convocation immédiatement. Ça veut dire que pour un public, par exemple, qui est suivi au service pénitentiaire d'insertion et de probation, il ressort du SPIP avec la confirmation du prochain rendez-vous par SMS, mais surtout, il reçoit un rappel automatique de cette convocation 48 heures avant le rendez-vous. Ça c'est quelque chose qui est important puisque ça vient rappeler vraiment au plus proche du rendez-vous. Après, ce qu'on pourra vous montrer dans la méthodologie, c'est que tout est testé, et même ce délai par exemple de 48 heures a été testé. La dernière fonctionnalité, c'est la prise de rendez-vous par le bureau d'exécution des peines ou par le greffe correctionnel. Donc vous savez que lorsqu'une personne est condamnée à une audience correctionnelle, elle reçoit une convocation, on lui délivre une convocation pour se présenter soit devant le tribunal, soit devant le service pénitentiaire sous probation. Quelque chose qu'on n'avait pas identifié au cours de la phase d'investigation, mais qu'on a fait au cours de la phase de construction, c'est que en fait ce rendez-vous, il est crucial puisque c'est celui qui vient débuter la prise en charge judiciaire, et c'est en particulier celui-ci qu'il ne faut pas rater, puisque après le risque, c'est de perdre la personne et surtout de passer à un plus court, plutôt un mode de circuit long, donc qui peut durer plusieurs mois avant que le juge judiciaire ne se mettre en place. On travaille, nous, ce qu'on appelle en méthodologie agile. Donc je pense que Félicie l'a déjà un petit peu introduit. Il faut vous dire que classiquement, les projets étatiques et les projets étatiques numériques sont construits en cycle en V. Donc c'est vrai que l'approche start-up d'État, elle modifie considérablement les process classiques de projets étatiques. Alors nous, on fonctionne en sprints de 2 semaines. Donc quand on explique ça à nos collègues de travail, c'est vrai que ils sont assez perplexes
sur cette méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, vous voyez des objectifs. Pourquoi ? Parce que ça permet vraiment de venir à un camp, mais de dire tous les 15 jours, bah voilà, où, après avoir mesuré l'impact, est-ce qu'on poursuit sur les mêmes la priorisation de tâches. Et donc justement, tous les mercredis, donc c'est normalement, on priorise les tâches et les fonctionnalités à réaliser dans le sprint. Donc on utilise notamment un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Trello, qui est un outil de travail en équipe pour pouvoir prioriser au sein de l'équipe les tâches et les fonctionnalités à développer au cours du sprint de 15 jours. On fonctionne, nous, au contact très étroit de nos utilisateurs. Alors, quand on vous dit utilisateur, pour nous, c'est vraiment utilisateur au sens large, donc c'est-à-dire les professionnels du ministère de la Justice. On voit là deux membres de notre équipe avec un personnel du service de l'application des peines. On teste aussi auprès du public justice, donc ça veut dire des usagers du service public qui sont condamnés et donc suivis au sein soit du tribunal, soit du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et en fait, c'est en testant le produit qu'on va venir le faire évoluer, adapter au fur et à mesure des retours. Notre offre de service, donc je voulais un petit peu expliquer, et là vous avez une capture d'écran de notre outil métier qui est extrêmement simple d'utilisation pour plusieurs raisons, va venir doubler les convocations dans SMS de confirmation, rappeler automatiquement le rendez-vous 48 heures avant. Donc là je vous disais tout à l'heure, c'est encore quelque chose qu'on a testé, puisque vous voyez, on pouvait se poser la question, nous, dans nos... comment dire, dans nos échanges, dans nos réflexions, du délai dans lequel on allait venir rappeler cette convocation. Donc, par exemple, on se questionnait entre 24 et 48 heures. Finalement, c'est 48 heures qui a été retenue pour pouvoir permettre à la personne de se retourner si jamais elle avait oublié ce rendez-vous-là, ce que permet moins, par exemple, un rappel à 24 heures. Et surtout, on propose aux professionnels de participer à l'amélioration du dispositif. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est vraiment novateur par rapport au projet classique, c'est-à-dire que on va venir proposer aux professionnels du ministère de la Justice de participer à l'amélioration de l'outil, alors même que classiquement, on a plutôt l'habitude de mettre les produits clés en main dans les mains des professionnels, et les évolutions sont quand même beaucoup plus difficiles, beaucoup plus lentes à venir concrètement aux professionnels. Donc par exemple, sur notre outil métier quotidien au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, on a deux grosses mises en production par an pour faire évoluer l'outil. Sur Mon Suis Justice, on est minimum sur une mise en production par semaine. Donc, imaginez que quand un professionnel, un usager vient faire des propositions d'amélioration, d'évolution, potentiellement la semaine suivante, il l'a déjà entre les mains, ce qui n'est absolument pas le cas des autres outils qu'on utilise au quotidien. En parallèle, ce que vous disiez, Félicie, c'est que, alors, non seulement les personnes, peuvent oublier le rendez-vous, mais surtout, on a constaté à notre niveau une absence d'accompagnement des personnes à l'appropriation et à l'appropriation de leurs mesures judiciaires. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà assisté correctionnel, vous voyez que ça va très très vite. Parfois, ça peut durer jusque très tard, et donc les personnes elles n'ont pas toujours la pleine compréhension de ce qu'on leur explique. Et puis derrière, on est aussi sur un vocabulaire très clairement qui est parfois éloigné du vocabulaire du public qu'on a l'habitude de suivre. Et donc, même si on leur explique de façon pédagogique les mesures pour lesquelles elles sont suivies. Une fois sorties du SPIP ou du tribunal et une fois rentrées à la maison, bah, ils ont du mal très clairement à comprendre ce qu'on attendait. Donc en plus de l'outil métier, on a créé voilà, un site public d'information qui permet aux personnes, donc c'est un lien qu'on communique aux personnes qu'on suit et qui leur permet, où qu'elles soient, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de venir s'informer sur les mesures judiciaires et notamment ce qu'on attend d'elles. Donc typiquement, on a fait un travail assez important nous de vulgarisation de ce jargon judiciaire qu'on a l'habitude de voir au quotidien pour dire aux personnes ce qu'elles doivent principalement retenir de leur suivi judiciaire, donc les règles essentielles du suivi judiciaire, mais aussi expliquer les obligations qui s'imposent à elles. Et ensuite, on a fait tout un travail explicatif des mesures judiciaires, en simplifiant ce qui peut habituellement être présenté, tout en restant institutionnel. Donc c'est un peu un travail d'équilibriste. L'idée, c'est avec Félicie, on sait qu'on travaille dans un environnement judiciaire. On n'oublie pas quand même l'environnement dans lequel on bosse. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment d'être dans un équilibre entre une vulgarisation et quand même le côté institutionnel. Donc, ensuite, la personne, donc elle vous le disait, Félicie, c'est qu'elle n'a pas toujours la possibilité, en tout cas la facilité, de communiquer avec le SPIP, avec le tribunal. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner là-dessus. Donc comment me rendre au SPIP? Que faire si je ne peux pas me rendre à mon rendez-vous? Quel justificatif apporter, etc., etc. Tout ça, pour vous expliquer, c'est des choses qu'on est venu tester auprès du public suivi, auprès des usagers du service public, très clairement, en leur mettant l'outil entre les mains, en leur faisant lire ce qu'on avait écrit, ce qui était compréhensible, ce qui ne l'était pas. Et là encore, on est vraiment, j'allais dire, à mille lieues de ce qu'on fait habituellement au sein du ministère de la Justice. On a vraiment très très peu l'habitude de solliciter l'avis du public qu'on suit. Pourquoi? Parce que c'est un public contraint, on n'a pas cette habitude-là, ce réflexe professionnel-là de venir solliciter leur avis. Donc ils étaient tout à la fois surpris et assez ravis qu'on puisse le faire. Et la dernière partie de notre public, c'est cette page-ci. C'est pour communiquer aux personnes les opportunités au sein de leur département pour les accompagner dans leur réinsertion. Donc on peut imaginer, pour nous, c'est vraiment une version zéro de l'outil, que par exemple, si des personnes viennent nous parler d'une nouvelle association, d'un collectif qui aide les personnes à se réinsérer, qu'on puisse alimenter cette page-là. Donc vraiment, l'idée, c'est d'un outil qui soit extrêmement évolutif. Hop. Nos impacts, puisque on vous l'a dit avant tout, on est guidé par l'impact. Ils sont évidemment qualitatifs. Je vous disais que forcément nos utilisateurs, ils appréciaient que leur rendez-vous soit rappelé 48 heures à l'avance, un peu comme nous, quand on reçoit un SMS de rappel de notre rendez-vous médical ou avec les impôts ou avec la CAF ou je ne sais quoi, ça fait toujours plaisir de recevoir une petite piqûre de rappel. Mais surtout, pour nos utilisateurs professionnels, ils s'investissent dans l'évolution de l'outil et ils nous font des retours parce que ils voient que ça évolue et ils voient que ça s'améliore avec leur retour. Donc ils nous font vraiment beaucoup de retours. Et surtout, nos retours, ils sont statistiques, puisque très clairement, on a augmenté considérablement le taux de présence au rendez-vous, ce qui nous a permis de baisser de 32% le taux d'absentéisme dans mon propre service, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. On était, sur un taux de présence un peu plus haut que 50%, 60%, et donc avec des rendez-vous rappelés par SMS, on est à un petit peu moins de 85% de taux de présence au rendez-vous, ce qui est quelque chose vraiment de très satisfaisant pour le suivi judiciaire. Les principaux bénéfices, je pense que vous l'avez un peu compris, c'est d'ores et déjà des rendez-vous honorés, donc ce qui veut dire derrière des évité, donc du temps gagné pour nos agents du ministère de la Justice, mais surtout un public qui va être mieux suivi. Pourquoi ? Parce que avec Félicie, nous on est convaincus de la plus-value pour certaines personnes d'un suivi judiciaire en milieu ouvert, au long cours, et de la méthodologie qui est employée pour suivre les personnes, mais pour le faire, eh bien, il faut que les personnes se présentent au rendez-vous. Et donc, de fait, si elles se présentent, on a l'opportunité de les accompagner dans leur réinsertion. On a débuté à Nanterre au mois de juillet en mettant entre les mains tout à la fois de nos collègues professionnels et du public suivi Mon Suisse Justice. On a déployé pour la première fois en dehors des Hauts-de-Seine à Chartres au mois de décembre et on a d'ores et déjà deux autres déploiements prévus à Paris et à Angers au mois de février avec l'idée qu'on présentera nos travaux devant le ministère au mois de mars qui nous dira soit on s'arrête là potentiellement, l'impact n'est pas assez fort mais on espère plutôt que le ministère continuera de nous soutenir de venir conforter nos travaux et de nous dire OK pour poursuivre encore 6 mois. Nos objectifs d'impact d'ici à la mi-mars, qui sera la date de notre comité d'investissement, c'est, vous l'avez compris, de déployer l'outil métier. Puisque en octobre, quand on a présenté nos premiers travaux, 800 personnes placées sous main de justice bénéficiaient de ce produit-là. On espère passer à 5 000 d'ici la mi-mars, sachant qu'on est à un petit peu moins de 3 000 aujourd'hui, donc on peut être assez confiant sur l'atteinte de cet objectif, mais surtout de déployer le site public que vous avez pu voir. Donc vous avez le lien ici dans la présentation, donc vous pouvez vous aussi aller voir ce site et nous faire retour de vos observations, de vos suggestions d'amélioration, puisqu'il y a une adresse de contact, donc on recevra vos retours avec plaisir. Et enfin, de développer une interface usagée. Pourquoi ? Parce qu'on a pu vous dire que dans les causes d'absentéisme, il y avait aussi la difficulté à communiquer avec la justice. Très clairement, Félicie, on est fonctionnaire du ministère de la Justice. Bien sûr, on défend nos ministères, on défend son fonctionnement et son évolution, mais on est aussi consciente que parfois, et surtout à Nanterre, une grosse machine judiciaire et que nos deux services peuvent être difficiles à joindre. Donc l'objectif, c'est de pouvoir développer une interface usagée permettant aux personnes, encore une fois, où qu'elles soient, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de bénéficier d'informations qui leur sont personnelles. On imagine dans une version 0, mais encore ici, là, tout est imaginable, que la personne pourrait avoir accès à minima à la date de sa prochaine convocation judiciaire, mais aussi, par exemple, un rappel de sa mesure judiciaire, du temps qui lui reste à être suivi par la justice, ou encore de ses obligations personnelles, ou encore le nom de ses interlocuteurs et comment on fait pour les contacter. En tout cas, c'est ça qui est assez grisant, on va dire, comme méthodologie, c'est qu'on part d'une page blanche sur cette interface usagée et qu'en fait tout est imaginable en fonction des retours qu'on a et qu'on aura du public suivi. Je pense que avec Félicie on vous a à peu près dit ce en quoi consistait notre travail sur Mon Suisse Justice, pardon. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui vient vraiment changer les modalités de travail du ministère et que on espère voir se développer au sein du ministère.
J'espère qu'on a été assez clair et que vous avez compris ce en quoi ça venait révolutionner nos méthodes de travail. Et voilà, on est dispo pour toutes les questions que vous aurez.
Un grand merci Félicie et Delphine pour cette présentation, je vous rassure, très claire. Et je donne immédiatement la parole alors aux étudiants du Master 2 Droit du numérique qui avaient donc des questions. Et je pense notamment à Juliette et Amel, si elles sont bien connectées. Non. Bon. Donc je vais faire le relais. Juliette et Amel s'interrogeaient en fait sur. Oui.
Excusez-moi, je suis désolée, mon Teams bug un petit peu. J'ai du mal à activer le micro. Je reprends juste ma petite question sous les yeux, comme ça, je dis pas de bêtises et je suis là.
Très bien. Je vous laisse la parole dans ce cas-là, Juliette.
Merci beaucoup. Bon, alors ma question, en tout cas, elle portait sur l'accessibilité, en fait, parce que après mes observations pendant mon stage au tribunal l'année dernière, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait une grosse problématique qui ressortait du développement de ces technologies et qui était en fait de trouver un équilibre entre améliorer l'accessibilité en ayant recours du coup aux technologies et au numérique. Et en même temps, du coup, la potentielle perte d'accessibilité, en fait, en raison des inégalités numériques, des inégalités d'accès, d'accessibilité de manière générale, de lisibilité, d'accès à Internet, et toutes ces choses-là. Et du coup, en fait, je voulais vous demander votre avis sur cette question. Est-ce que pour vous, dématérialiser la justice, ça augmente nécessairement l'accès à la justice, ou est-ce que c'est difficile, du coup, de trouver cet équilibre en assurant, du coup, toujours l'accessibilité pour toutes les personnes qui ont besoin de cet accès à la justice.
Alors, bonjour Juliette, ravie de te retrouver dans ce cadre-là, puisqu'effectivement, Juliette a fait un stage au tribunal l'année dernière. Sur l'accessibilité, c'est un sujet, bien évidemment, sur lequel on a travaillé aussi bien au moment de l'investigation que depuis le développement de la phase de construction. On a, avant de partir sur cette idée de SMS et d'accès à Internet, on a vérifié que le public qui était le nôtre avait accès à ces modes de communication et on a pu constater que toutes les personnes qui sont suivies, sauf très exceptionnellement, ont accès à un téléphone et peuvent recevoir des SMS, puisque notamment ça implique pas forcément d'avoir du forfait ou des unités sur son téléphone. Donc cette information descendante d'informations par SMS, pour nous, elle n'était pas bloquante en termes d'accessibilité. C'était vraiment ce qui nous permettait d'être le plus large possible. Après, sur l'accès au site internet qu'on a créé depuis, effectivement, tout le monde n'a pas forcément un smartphone, un forfait qui permet d'accéder à Internet ou autre. Nous, aujourd'hui, on a l'impression, et on l'a vérifié, c'est que une grande majorité des personnes qui sont suivies peuvent avoir cet accès, et il y a pas mal d'endroits où ils peuvent avoir accès à Internet pour y accéder. Évidemment, ça ne correspond pas à 100% du public. D'accord. Et peut-être sur l'accessibilité dans une autre version qui n'est pas seulement l'accès à Internet et aux outils, on travaille aussi beaucoup sur l'accessibilité pratique à la façon de communiquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille nous avec des designers qui sont soit des personnes de beta.gouv qui travaillent avec nous et qui peuvent nous accompagner, nous orienter dans quelle direction aller pour que les contenus de ce qu'on fait soient accessibles aux personnes suivies, soit on peut aussi, il nous arrive de recruter des personnes qui vont faire une mission avec nous de une prestation pour travailler avec nous sur la vulgarisation, l'accessibilité visuelle. Et toutes ces contraintes qu'on est obligé de prendre en compte pour que notamment le site d'information soit le plus accessible et au plus grand nombre.
D'accord, super. Merci beaucoup.
Merci Félicie. J'ai une question de ma collègue Lucie Cluzel.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. C'était extrêmement intéressant. J'avoue que pour essayer d'enseigner l'état plateforme à nos étudiants, je trouve que c'est vraiment une magnifique illustration très concrète de ce que signifie en fait une start-up d'état concrètement. Donc merci beaucoup. J'avais une question par rapport à la réalisation donc de cette plateforme, enfin de cette start-up. Je voudrais savoir comment vous avez pris en considération la problématique des données personnelles et de la protection des données de manière générale, que ce soit au niveau de l'hébergement ou de la protection de manière générale, des risques qui peuvent être en lien avec le traitement de ces données. Je sais qu'il y a, j'ai cru voir en ligne le DPO de notre université, pas très très loin, donc j'aurais bien aimé savoir comment vous avez traité cette question.
Alors effectivement c'est une question importante, je vais répondre aussi. C'est quelque chose qu'on prend en compte et qu'on prend en compte exactement comme les autres données au fil de l'eau. C'est ça qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire que contrairement à un projet informatique du ministère qui doit d'abord baliser tout ça pour ensuite sortir quelque chose, nous on a la chance de bénéficier un petit peu du statut d'expérimentation et de pouvoir avancer sur ces sujets en parallèle et c'est pas quelque chose qui nous a bloqué pour mettre en production et mettre entre les mains des utilisateurs notre outil. En revanche, on est toutes les deux juristes, on est toutes les deux attachées à la protection des données et des libertés de chacun, donc on a toujours veillé à ce que l'outil soit dans un environnement de sécurité informatique suffisant. Et sur la question des données personnelles, on a contourné entre guillemets la difficulté d'attendre l'autorisation CNIL pour déployer en utilisant que des données non sensibles, ce qui nous permet aujourd'hui d'être soumis au RGPD et de ne pas devoir attendre d'avoir une AIPD pour mettre notre outil en production. Donc concrètement, on a aujourd'hui dans l'outil uniquement nom, prénom, numéro de téléphone, date et lieu du rendez-vous et on n'utilise pas du tout l'infraction pour laquelle les personnes ont été condamnées, qui pourrait, on pourrait en déduire une obligation de soins et donc on basculerait dans des données sensibles. Donc on a écarté toutes ces données sensibles pour pouvoir mettre rapidement en production et utiliser l'outil. Et en parallèle, donc on a satisfait aux demandes de notre administration par rapport à ça, qui vont au-delà des exigences RGPD. C'est que on a travaillé donc à une notice de notification des droits pour les usagers. On a également un registre qui est à la disposition de la CNIL si on nous le demande. Et le responsable de traitement aujourd'hui, c'est le directeur de l'administration pénitentiaire. Et on a un arrêté ministériel qui est qui a été élaboré, mais qui est en cours de remontée et qui va progressivement être transmis par le ministère au secrétariat général du gouvernement pour couvrir le traitement de données.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Félicie. Eric.
Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé très, très intéressante et très claire. Moi j'aurais une question sur le développement et la façon dont vous avez travaillé avec vos collègues qui n'étaient pas dans l'équipe, donc les utilisateurs professionnels, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous avez montré en termes de développement, c'est que c'est un développement d'une certaine manière très participatif, puisque vous procédez par par amélioration en fait, en intégrant les, en tenant compte des retours qui vous ont été faits. La contrepartie de ce mode de fonctionnement, c'est que ça met à contribution les professionnels qui ont autre chose à faire aussi que de développer l'outil. Et donc je voulais vous demander comment vous avez fait pour gérer ça en fait, parce que vous risquiez de donner une surcharge de travail, donner des préoccupations supplémentaires à des personnes qui n'étaient pas comme priorité ce projet. Et puis j'ai une deuxième question de curiosité sur la façon dont vous avez vous-même vécu cette expérience-là, parce que vous avez vécu dans un contexte qui était différent du contexte hiérarchique qui est habituellement en vigueur au ministère de la Justice, et je voulais que vous nous disiez si cette expérience-là va changer les choses sur votre manière de fonctionner quand vous reviendrez dans un univers plus normal, ou peut-être que vous allez décider de plus revenir à l'univers normal, je ne sais pas. Donc voilà.
Eh bien, d'abord, merci beaucoup pour votre question. Pour vos questions, pour répondre à la première l'association des professionnels qui font partie de nos deux services, de nos deux structures, mais aujourd'hui au-delà de nos deux structures, puisque par exemple à Chartres, on est exactement sur la même méthodologie, alors même que les agents ne font pas partie de nos structures. J'allais dire, ça a été notre préoccupation première, c'est-à-dire de leur faire gagner du temps, et c'est aussi pour ça qu'on les y a associés. L'idée, c'était de leur dire que en rappelant les convocations par SMS, les personnes allaient plus venir, et donc ils allaient gagner du temps, vous voyez, en pratique, en action de reconvocation, en acte professionnel de reconvocation. Donc déjà, ça c'était la première chose. Et en les faisant participer, j'allais dire que tout au contraire, ils sont extrêmement satisfaits, contents et en attente et valorisés, vous voyez, dans leur participation. Parce que ce que je vous disais, c'est que c'est absolument pas dans les pratiques habituelles du ministère. Par exemple, vous voyez, sur des besoins qu'on pourrait considérer comme de nos agents. Moi, par exemple, j'ai des agents qui sont conseillers d'insertion et de probation et qui rédigent des rapports qui peuvent être plus ou moins longs. Et par exemple, pendant des années, ils ont demandé à ce que le nombre de caractères dans les rapports soit augmenté. Et ça a mis vraiment des années à être mis en production. Et quand là, ils voient que, en fonction de leurs besoins pratico-pratiques, l'application, elle évolue de semaine en semaine, au contraire, vous voyez, ça les incite à faire des remontées, parce que ils voient que on est attentif à leurs besoins, et que surtout c'est très rapide et très évolutif. Donc franchement, ça n'a posé aucune difficulté, bien au contraire, et toutes les semaines on a des remontées des agents qui sont très contents de voir leurs besoins s'exprimer réellement et concrètement. Et pour répondre à votre deuxième question, comment l'a vu et comment on pense le vivre à l'avenir. Alors déjà, c'est vrai qu'on l'a pas développé, mais Félicie et moi, on est mis à disposition à hauteur de 40% sur ce projet, donc à hauteur de 2 journées de travail par semaine. Et le reste de notre temps de travail, Félicie est secrétaire générale adjointe de la présidente, et moi je suis directrice adjointe du SPIP des Hauts-de-Seine. Donc on est déjà dans parfois dans cette schizophrénie entre l'approche start-up et l'approche classique du ministère de la Justice. Et pour vous dire, évidemment, cette approche start-up, ça irrigue nos pratiques professionnelles. Et pour ne parler que de moi, et je laisserai Félicie compléter, ma pratique professionnelle, elle a évidemment évolué depuis
depuis un an que j'ai rejoint ce projet. Moi qui avais des doutes il y a un an en me disant est-ce que j'arriverais à fonctionner dans ce nouvel écosystème, notamment sur l'autonomie de l'équipe. Et comment dire, l'autonomie des prises de décision, alors même que je suis dans une administration extrêmement hiérarchisée, je pense que je n'arriverai plus à fonctionner autrement aujourd'hui. Donc non, c'est, et ça irrite déjà.
Delphine, on vous entend plus. Ah, je ne sais pas si Félicie peut reprendre la suite, peut-être que Félicie...
Alors, effectivement, je trouve que le réseau n'est pas très bon, mais j'avais fini pour ma part.
Je rejoins complètement ce que dit Delphine, et c'est un projet qui est très enthousiasmant pour nous dans le cadre de nos fonctions et qui est très enthousiasmant pour toutes les personnes qu'on met à contribution et à qui on propose d'utiliser l'outil. Donc pour l'instant c'est vraiment très positif et ça fait plaisir à tout le monde.
Merci. Alors, Sonia, vous avez une question?
Juste peut-être pour vous préciser si on peut faire rapidement puisque on doit vous quitter avec Delphine, mais je vous écoute pour la dernière question.
J'ai une petite question très rapide, s'il vous plaît. Je voulais savoir si l'individu qui utilise l'application, par exemple, il va pas prendre en considération par inadvertance ou non les différentes notifications ou rappels qui lui sont envoyés. Est-ce qu'il peut encourir des sanctions? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ce serait une option envisageable?
Alors aujourd'hui, mon sujet de justice change absolument pas la procédure pénale. Et ce qui vaut, c'est la convocation, les modalités de la convocation qui ont été envoyées. Et mon suivi justice et le SMS qui est envoyé par mon suivi justice, on est vraiment que dans de l'accompagnement. C'est un peu du bonus pour la personne qui est suivie. Et en aucun cas, le fait d'avoir reçu un SMS peut être mis à sa décharge s'il ne se présente pas à la convocation.
Jean-Luc,
très vite. Rapidement, moi sur les questions, ça c'est plutôt des remerciements. Bravo aux étudiants qui ont fait cette présentation. On est très fiers au nom du CFA. Moi je découvre cette chaire et tout ce qui est fait. Je suis plus que ravi. Donc ça témoigne vraiment que le numérique est partout. Il y a des projets encore pour cette année, pour l'année prochaine, qui sont apportés. Le matching entre des fiches mission, une offre, un candidat. Il y a plein de choses à faire avec le numérique. Le recrutement, on en a parlé, vous en avez très bien parlé, la cooptation. On peut faire plein de choses aujourd'hui. En tout cas, on voit que tout ce qui se prépare est plus qu'intéressant parce que ça nous touche au quotidien, y compris dans les démarches avec l'État. Et on le voit, c'est très simple maintenant de faire plein de choses, de faire une carte grise, de faire une carte d'identité. Donc voilà, c'est très plaisant. Au nom du CFA AFIA, vraiment bravo à tous. Chalut tous ceux qui sont intervenus. Alors pour certains, il y a encore un petit peu de travail à faire sur la présentation, moins de lecture, etc. Mais tout ça, on va le travailler, vous allez le voir avec les cours. D'autres ont une voix qui présente très bien, je tiens à le dire. J'étais vraiment, en tout cas dans les étudiants, on a des personnes qui présentent aussi très 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 bien les choses. Et voilà, merci à vous tous et à chaque participant, chaque contributeur. Eric, Catherine, à vous pour... tout ce qui a été mis en place, que c'est en fait moi qui arrive en tant que personne, en tout cas sur ces sujets, je suis vraiment plus que content et ravi et enthousiaste à l'idée de ce qu'on va faire après ensemble, voilà, sur les différents masters.
Merci beaucoup.
Donc merci infiniment. Merci.
Je vais libérer peut-être Félicie et Delphine avec mes plus vifs remerciements et donner la parole donc à Eric pour la suite du programme.
Bien, je vais la donner à...
Merci beaucoup.
Et à Lydia, merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Présentation, merci. Walid et Lydia, est-ce que vous êtes...
Oui.
Là? Oui. Je vous donne la parole.
J'ai mis oui, comme oui, vous voulez. Merci.
Parfait, excusez-moi, j'ai un petit bug avec Teams. Donc voilà, à présent, continuons avec Push Talent. Donc, on va faire une petite introduction de Push Talent. Donc, c'est une solution digitale spécialisée dans le recrutement par cooptation. Donc, c'est une start-up dans les ressources humaines, comme je vous l'ai dit, spécialisée dans le recrutement. Et c'est une plateforme numérique dont l'objectif et l'ambition, c'est d'aider les équipes RH à recruter plus vite et d'une meilleure manière, en s'appuyant sur les collaborateurs et donc pas uniquement les recruteurs.
Donc, comment cela se caractérise concrètement? Chaque collaborateur recommande ou coopte des candidats au sein de son réseau et peut partager une communication RH publiée par leur entreprise. L'objectif, c'est vraiment de mobiliser le réseau des salariés qui n'est pas assez mis en avant aujourd'hui en entreprise. Donc Sébastien Maître, cofondateur de la société et en direct de Shanghai, va maintenant nous présenter l'application Push Talent.
À vous, Sébastien, merci beaucoup.
Merci Walid, merci Lilia, merci Eric aussi à l'équipe de me donner la possibilité de m'exprimer devant ce parterre d'experts RH et du numérique. Alors en effet, en quelques mots, moi j'ai d'abord, si vous le voulez bien, me présenter un petit peu mon parcours et comment Push Talent s'est né, parce que c'est toujours important de parler d'intrapreneurs, d'entrepreneurs, de savoir un petit peu comment ces idées naissent et se concrétisent. Et puis évidemment je ferai une démo de la plateforme, comme ça vous aurez, en fait, vous pourrez tout à fait vous projeter dans l'usage en tant que client, usager, collaborateur, parce que demain tout le monde travaille en entreprise et tout le monde potentiellement peut être concerné par cette application. Et puis on laissera évidemment un temps ouvert aux questions-réponses et à la discussion, si ça vous va. On a, je crois, jusqu'à 19h, hein, Eric, donc...
Pas 19h, on a...
Pardon, oui, parce qu'il est 18h ici.
C'est le problème de la Chine, en fait, vous n'avez pas le même...
Ouais, on n'est pas sur le même fuseau, on a jusqu'à midi. Voilà.
Exactement.
Ok, donc je ferai un peu plus court. Ok, parfait. Ouais, non, 19h, ça va être long, là. 8 heures de visio, là, je le souhaite à personne. Alors, donc, en effet, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Maître. Alors... J'ai 43 ans, j'ai travaillé d'abord une douzaine d'années dans le conseil, dans des cabinets de conseil, petits et grands, autour de projets d'organisation, de réorganisation, de restructuration, de management, dans plutôt des grands groupes. Et donc, j'ai toujours travaillé aux côtés des équipes RH. Je ne suis pas un expert RH, un opérationnel RH, mais j'ai toujours été au contact de ces fameuses directions RH, de ces processus métiers, et de ces directions, ces équipes qui sont souvent en fait la cheville ouvrière de l'entreprise et qui sont souvent d'ailleurs mal connues, méconnues par beaucoup. Et puis en fait, en 2014, je suis parti en Chine en famille, parce qu'on a eu, mon épouse a eu une opportunité professionnelle ici à Shanghai. J'ai fait un break, j'ai fait un petit peu de conseil en freelance et en fait, j'ai été frappé justement par les usages ici en Chine autour du numérique, autour de la gamification, autour de la place du mobile. Alors aujourd'hui, en 2022, ça paraît une évidence, mais en 2013-2014, en France, on en était encore loin. La place du mobile dans les interactions au quotidien, des consommateurs, des gens au quotidien, la place des réseaux sociaux, du marketing d'influence, qui était omniprésent déjà à l'époque, la place de la gamification, comment distiller des mécaniques de jeu dans la relation avec des citoyens, on a beaucoup parlé dans la presse, avec des consommateurs, avec des salariés. Et en fait, tout ça, inconsciemment, s'est marié avec mon ancien métier qui était plutôt autour des RH. Et de cette rencontre un petit peu des deux mondes, d'un côté, le numérique à la chinoise, donc c'est-à-dire très en avance sur ce qui se passe en Europe et sur ce qui se passe en France. Et de l'autre côté, le mariage avec plutôt la matière RH et l'organisation et le management à l'européenne ou à la française ou à l'occidentale, on va dire, où là, pour le coup, j'estime qu'on est beaucoup plus en avance sur les Chinois sur ces questions-là. Et donc, en fait, Push Talent, c'est né un petit peu du mariage de ces deux mondes, de ces deux environnements. Voilà, ça, c'était pour dresser un petit peu le background. Alors, comme l'ont très bien expliqué Lilia et Walid, Push Talent, alors, je vais vous présenter, j'ai quelques slides de présentation, avant de passer à la démo après. Voilà, normalement c'est bon.
Oui, on voit votre...
Voilà. Donc, l'idée, justement, l'objectif de Push Talent, c'est d'aider les entreprises à recruter mieux, et plus vite, et à renforcer leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc recruter mieux et pour plus vite, on va voir comment ça marche, et bon, ça parle à tout le monde. Renforcer la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est capital. C'est ce qu'on appelle la marque employeur, c'est ce qu'on appelle l'attractivité de l'entreprise. Aujourd'hui, le recrutement, il est aussi et essentiellement sur les réseaux sociaux, dans de plus en plus de secteurs de l'économie en France et en Europe. Donc il faut, pour recruter mieux et plus vite, avoir des processus de recrutement et de sourcing, on va voir, adaptés, mais également il faut faire parler de l'entreprise sur les réseaux sociaux, et il faut évidemment qu'elle soit visible par le plus grand nombre, puisque tous les candidats se trouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et alors, donc, à partir de ce constat, on est parti d'un constat assez simple, qui est de dire, aujourd'hui, on a un levier en entreprise de communication, de relais de communication et de recrutement absolument exceptionnel et totalement sous-utilisé aujourd'hui en entreprise, c'est le salarié. Pourquoi ? Parce que le salarié, c'est lui qui connaît le mieux l'entreprise, c'est lui qui est l'ambassadeur le plus crédible vis-à-vis du monde extérieur, et si vous combinez le réseau de l'ensemble des salariés d'une entreprise, que ce soit une entreprise de 50 personnes ou une entreprise de 10 000 personnes, vous avez accès à un vivier de candidats et un vivier de talents absolument exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on a développé une plateforme dans laquelle les collaborateurs deviennent ambassadeurs de leur entreprise, ce qu'on appelle en anglais « employee advocacy ». Il n'y a pas vraiment de traduction en français à part l'ambassadora, qui n'est d'ailleurs pas français, donc c'est l'employee advocacy. Et en fait, on va leur proposer deux missions. Un, participer au recrutement via la cooptation. Pourquoi la cooptation ? On va le voir juste après, parce que pour moi, c'est l'une des meilleures, voire la meilleure source de recrutement en entreprise, mais elle est aujourd'hui largement sous-utilisée, non systématisée, non industrialisée et encore moins digitalisée. Donc là, l'enjeu, c'est de faire de la cooptation l'une des sources de recrutement numéro 1 ou numéro 2 de l'entreprise. Et de l'autre côté, la deuxième mission qu'on va proposer aux collaborateurs, c'est de repartager des contenus de communication, évidemment, s'ils le veulent, quand ils le veulent, s'ils trouvent les contenus de communication intéressants, de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi la cooptation ? Je vais passer rapidement sur les chiffres. Il y a plein de chiffres qui sont sur Internet. Si vous en voulez plus, vous pourrez me contacter ultérieurement. J'ai des datas, j'ai des études. En termes de coûts, de délais, de qualité de recrutement, la cooptation est une superbe source de recrutement. Également sur la rétention, à la fois les cooptés et les gens qui ont coopté des candidats restent un petit peu plus longtemps en poste. Donc vous avez un impact sur le taux de rétention et le taux de turnover aujourd'hui en entreprise. Ensuite, pourquoi demander aux collaborateurs d'être des ambassadeurs sur les réseaux sociaux ? Tout simplement parce que leur réseau est une véritable force pour l'entreprise. Quand un collaborateur partage le contenu de son entreprise, vous allez avoir 10 fois plus d'impact sur les réseaux sociaux que ce même contenu partagé par la marque elle-même. C'est le principe du marketing d'influence. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Ça fait encore une fois, c'est comme la cooptation. La cooptation, ça fait des centaines d'années, des milliers d'années que ça existe. Le marketing d'influence, ça fait 70 ans que ça existe. Sauf qu'aujourd'hui, avec le digital et le numérique, ça a pris des proportions absolument incroyables. Aujourd'hui, le marketing d'influence est rentré un petit peu partout. Là, l'idée, c'est de faire aussi des collaborateurs, des nanos, des micro-influenceurs. Ils vont pouvoir toucher des gens de leur propre réseau pour justement parler de leur entreprise et faire rayonner l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc voilà les deux concepts. Voilà, pardon, les deux missions qu'on va proposer aux collaborateurs. C'est vraiment de faire du collaborateur un ambassadeur en complément des outils de sourcing, des outils de recrutement et des outils de communication que les entreprises ont aujourd'hui en place. L'idée, ça n'est pas de remplacer l'existant, mais justement d'apporter un complément aux outils existants. Je vais passer à la démo. On fera les questions-réponses après. Eric, je vous vois là sur mon écran, mais comme je n'ai pas accès aux mains levées, etc., je propose qu'on fasse les questions-réponses après. Ce sera peut-être un tout petit peu moins interactif, mais ce sera, je pense, le plus fluide. Alors, la plateforme se décompose en deux interfaces. Une interface mobile pour les collaborateurs et de l'autre côté, une interface web pour les responsables RH, les équipes RH. Côté collaborateur, une application mobile que vous téléchargez sur les stores. Je suis salarié, par exemple, de L'Oréal. Voilà, les tartes à la crème. J'espère qu'il n'y a personne de L'Oréal, mais en gros, je prends l'exemple souvent de L'Oréal, parce que déjà, tout le monde connaît. En plus, en matière RH, digitalisation des RH, ils sont plutôt en avance sur beaucoup d'entreprises. Donc, je me connecte en tant que salarié de L'Oréal. Je vais recevoir un code. Et là, j'arrive dans une interface propre aux salariés de L'Oréal. C'est-à-dire que seuls les collaborateurs de L'Oréal vont avoir accès à Push Talents et vont avoir accès à ce contenu. Première mission, cooptation. J'ai accès en temps réel aux offres d'emploi qui sont publiées sur le site carrière de L'Oréal. On les récupère automatiquement, on les agrège. Je peux consulter l'offre en tant que collaborateur ambassadeur. Je peux la partager sur mes réseaux sociaux et je vais pouvoir coopter. Donc là, on arrive dans le cœur du problème. On a voulu lever trois principaux freins à la cooptation que nous avions avant le numérique et qu'on, justement, grâce au numérique, on essaye de faire sauter. Premièrement, c'est parfois le manque d'ergonomie dans des systèmes de cooptation que je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants qui ont fait des stages ou qui sont en apprentissage au sein d'équipes RH. Je pense que vous avez tous dans vos entreprises des systèmes de cooptation. Vous pourrez comparer l'ancien système avec peut-être le futur de la cooptation. On s'aperçoit aujourd'hui que dans des dispositifs classiques de cooptation, il faut parfois envoyer un CV, imprimer un CV, le mettre sur le bureau des équipes RH, candidater à la place de la personne cooptée avec des menus déroulants, on va noter ses skills, ses compétences, on va faire plein de choses, ça n'est pas fluide. Donc là, on a voulu faire sauter un premier frein, c'est parfois le manque d'ergonomie. Donc je vais recommander Logan pour le poste de Product Manager dans mon entreprise L'Oréal, un email, un nom, un prénom. Je le coopte, il va recevoir automatiquement un email lui disant « Sébastien, t'as recommandé pour le poste de Product Manager chez L'Oréal, est-ce que tu veux candidater ?» Il va cliquer sur un lien. Et il va arriver sur l'offre d'emploi hébergée sur le site carrière de L'Oréal. Il va candidater sur le site de L'Oréal. Le deuxième frein qu'on a voulu lever, c'est le manque de suivi qu'on a très souvent dans des systèmes de cooptation classiques. En gros, comment ça se passe aujourd'hui dans la majorité des entreprises? Je suis salarié, je vais recommander un candidat, et puis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois vont se passer, je ne vais pas avoir d'informations de la part de l'équipe RH. Je vais apprendre peut-être au bout de 3 mois que mon candidat a été pris, il n'a pas été. Donc il y a un terrible manque de feedback. Le processus n'est absolument pas transparent. Ce qui est tout à fait compréhensible quand il y a des volumes de cooptation importants, c'est difficile d'automatiser. Donc là, on a voulu mettre en place un suivi. C'est-à-dire que là, j'ai en temps réel un suivi de où se trouvent les candidats que j'ai recommandés pour L'Oréal dans le processus de recrutement. C'est-à-dire que à chaque étape de recrutement, ce sont des macro-étapes, hein, candidature reçue, entretien en cours, on ne sait pas s'il est à l'entretien 6 ou 7, on sait grosso modo où est-ce qu'il en est dans le processus de recrutement. Je sais où est-ce qu'il en est dans le processus de recrutement, j'ai un feedback, j'ai un processus transparent, et ça, en termes d'engagement, c'est absolument fondamental justement pour, encore une fois, je répète l'enjeu de Push Talent, c'est de faire de la cooptation la source numéro 1, peut-être numéro 2, de recrutement en entreprise, qui est aujourd'hui très loin d'être le cas. Donc il faut lever des freins, il faut lever des barrières, et ça, c'en est une. La deuxième barrière qu'on a voulu lever, c'est le système de récompense. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais aujourd'hui, un système de cooptation classique, vous allez gagner une prime financière qui va être intégrée dans votre feuille de salaire à la fin de la période d'essai. C'est-à-dire, je vais recommander Eric pour travailler chez L'Oréal. Il va peut-être être recruté. À la fin de sa période d'essai, donc dans 4, 3, 6 mois, 8 mois même maintenant, je vais toucher une prime qui peut être élevée, 3, 4, 500 euros. Dans certains cabinets de conseil ou dans des startups ou des ESN, ça peut monter jusqu'à 2-3 000 euros la prime. Donc on a gardé cette prime qui est importante. Elle peut être ici personnalisable par offre d'emploi. Ça peut être 200 euros ou 2 000 euros. Ça peut être aussi des points. Pourquoi des points? Parce que certaines entreprises ne veulent pas forcément donner d'argent. Il y a parfois un blocage culturel là-dessus. Donc dans ce cas-là, on peut donner des points. C'est une première mécanique de jeu qu'on a mis en place. Et avec ces points-là, vous allez pouvoir avoir des récompenses, vous allez pouvoir monétiser ces points sous la forme d'un portefeuille virtuel, et l'entreprise va vous débloquer des récompenses. On verra après. Mais surtout le frein qu'on a voulu lever, c'est sortir du système binaire de récompenses. En gros, mon candidat est pris, je gagne quelque chose, mon candidat n'est pas pris, je perds, ou du moins je ne gagne rien. Avec justement un système de progressivité des récompenses, c'est-à-dire qu'à chaque étape de recrutement, je vais gagner des récompenses, des points. Plus mon candidat va loin dans le processus de recrutement, plus je vais gagner des points. Donc on peut jouer sur l'effet volume en disant « allez-y, cooptez, vous allez commencer à enclencher des points », mais également sur la qualité des candidats en disant « essayez de nous trouver des candidats, mais essayez de trouver surtout des bons candidats, parce que plus ils sont bons, plus ils vont passer des étapes ». Là, l'idée, c'est de récompenser la communauté, de récompenser l'effort de tous, parce que quand je recommande un candidat pour travailler dans mon entreprise, ça veut dire que je suis un salarié engagé, je crée de la valeur pour mon entreprise, et même s'il n'est pas pris, je vais être récompensé. Voilà sur la partie cooptation. Vous voyez, l'usage est très simple, très ergonomique. Sur la partie communication, j'ai accès aux contenus de communication qui sont publiés par L'Oréal. Donc ça, c'est les contenus de communication que vous avez sur le compte LinkedIn de L'Oréal ou Facebook, sur le site carrière, sur une chaîne YouTube, sur un blog, peu importe. Je peux les consulter et les partager. Alors, quand je vais les partager, je ne vais pas gagner de points. Donc là, je les partage sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, peu importe. Je ne vais pas gagner de points. En revanche, quand je vais générer des clics, des visiteurs, c'est-à-dire des gens qui vont cliquer sur le contenu et atterrir effectivement sur le site carrière de L'Oréal, puisque c'est là où arrivent les candidats et c'est là où il faut générer du trafic entrant sur le site carrière de L'Oréal. L'Oréal, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils sont très connus. C'est en effet un mauvais exemple de prendre L'Oréal, mais on va prendre la petite PME du coin ou la petite ESN qui a du mal à être visible sur les réseaux sociaux. Ça va lui générer un trafic entrant. Là aussi, comme je génère de la valeur pour l'entreprise, parce que générer ce type d'interaction, de vue sur les réseaux sociaux, ça coûte extrêmement cher, je vais également gagner des points. À chaque clic, à chaque visiteur que j'ai généré pour le compte de mon entreprise, je vais également gagner des points. On a également mis en place un système de récompense, d'incentive sur la valeur, la visibilité que je permets de générer pour mon entreprise. Voilà sur les deux missions. Ça s'arrête là, c'est très simple. Je coopte, j'ai du contenu, je les partage, je compte les points et je participe au succès de mon entreprise. Parallèlement à ça, pour avoir un système ergonomique, un usage sympathique et créer une vraie communauté, on a ces deux missions, ces deux applications. On a également mis en place des modules de formation. Pourquoi ? Pour aider les ambassadeurs à devenir de meilleurs ambassadeurs. Là, l'idée, c'est de les sensibiliser au recrutement, à la matière RH, à la communication. On va leur donner des trucs et astuces sur comment bien utiliser les réseaux sociaux. On leur donne un cadre, un outil. On leur dit, vas-y, aide-nous à recruter. Aide-nous à communiquer sur les réseaux sociaux. Tu vas certes avoir des récompenses. Tu vas faire partie d'une communauté de salariés qui va jouer le jeu. Mais en plus de ça, on va te former. On va te donner des trucs et astuces. On va te mettre le pied à l'étrier pour justement t'aider. Souvent, quand les entreprises montent des programmes d'employee advocacy, elles montent en général des programmes de formation en interne pour former les ambassadeurs en présentiel. Là, l'idée, c'est d'avoir des modules de e-learning assez simples, assez ludiques. Vous gagnez pas de points, mais vous apprenez des choses qui vont vous aider à mieux remplir vos missions. Et je termine par l'interface de pilotage où en tant que collaborateur, je vais pouvoir piloter mes data, mes statistiques, ma performance sur la partie cooptation, mes candidats cooptés, le nombre de points gagnés, la partie communication, les visiteurs que j'ai pu générer, la partie formation. Ma performance à moi en tant qu'individu, mais également ce qu'a fait la communauté des ambassadeurs de L'Oréal. Elle a généré 18 000 visiteurs sur les réseaux sociaux. Elle a généré 14 candidats. Elle a recommandé 14 candidats. J'en ai recommandé 4. Il y a une dimension ici qui est très importante. C'est justement cette dimension de communauté de collaborateurs, de communauté d'ambassadeurs qu'il est très important de mettre en avant justement pour animer le dispositif. Et enfin, les points, je peux les dépenser. Donc ça, c'est 450 points. Ce sont les points que j'ai gagnés tout au long de mes missions. Je peux les dépenser pour avoir des mini-récompenses qui sont totalement personnalisables par l'entreprise. Ça peut être, alors là, j'ai mis des petits bonus financiers, ça peut être des chèques cadeaux, ça peut être des goodies, ça peut être des journées de formation, des jours de congé, des dons à des associations, ça marche très très fort. Je donne 400 points, mon entreprise L'Oréal va donner 100 euros à une association de mon choix. L'idée là, c'est de sortir de la sempiternelle récompense financière et c'est d'avoir un système de récompense beaucoup plus dynamique et beaucoup plus collectif. Voilà sur l'interface ambassadeur. Et derrière, il y a évidemment une interface pour le coup pour les équipes RH qui permet de piloter la plateforme. Je vais aller plus rapidement là-dessus parce que ça concerne plutôt les professionnels RH, même si vous en êtes et vous en serez des futurs professionnels. Mais en gros, je vais pouvoir piloter l'ensemble des datas que vous avez vues, qui sont ici centralisées, globalisées, la notion d'ambassadeur actif, l'engagement des ambassadeurs. Je vais pouvoir piloter le via ce qu'on appelle un ATS pour suivre et traquer les candidats qui ont été recommandés. Donc, comme un Trello, on parlait de Trello tout à l'heure, c'est la même ergonomie. Je passe un candidat d'une étape à l'autre. Son statut va changer et évidemment, dans le même temps, le collaborateur ici va recevoir une notification sur son mobile. Je peux gérer les annonces, je désactive, j'active les annonces. Sur la partie communication réseaux sociaux, j'ai les contenus que je peux activer, désactiver, donc là, ils disparaissent des réseaux sociaux. Et j'ai en temps réel un compteur de vues, de clics qui ont été générées ici par l'ensemble des réseaux sociaux. Ce chiffre-là, je ne sais pas si vous êtes tous adeptes des réseaux sociaux, mais tout bon community manager de n'importe quelle entreprise aujourd'hui sur un compte LinkedIn, L'Oréal, Push Talents ou n'importe quelle entreprise, il a cette data. Là, l'idée, c'est d'avoir cette data, mais pas la data générée par le compte entreprise de la société, mais par l'ensemble des comptes personnels des salariés sur les réseaux sociaux. Donc, ça vient vraiment en complément des outils actuels. Et derrière, vous pouvez gérer les récompenses, donc les bonus, vous pouvez les activer, les désactiver, vous pouvez créer des nouvelles récompenses qui seront publiées sur les applications mobiles, et vous gérez les demandes de récompenses qui ont été émises par les collaborateurs de façon à assurer le suivi, justement, de ces demandes de récompenses. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour avoir une démo assez complète. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est à vous.
Juste un point, Sébastien. Bonjour, je suis Jean-Luc Devrette, c'est Fafia. Je peux confirmer tout ce que vous dites. Merci pour cette application. Même les alternants, même le recrutement d'alternants, d'apprentis, fait l'objet de cooptation. On va citer des noms d'entreprises, des petites entreprises comme Capgemini, qui aujourd'hui rémunèrent très très bien tous les coopteurs. Donc, je bois vos paroles quand vous parlez de LinkedIn. Il faut qu'on soit présent. Il faut, chers étudiants, vous soyez présents, vous passiez le message. 30% des miens, enfin de ceux que j'ai accompagnés en 3 ans sur le site de Saint-Denis, on en a quand même plus de 150 cette année, dans les 150, 30% ont trouvé grâce à LinkedIn et grâce à des gens, des fois, qui recrutaient pour leurs recruteurs, grâce à l'identification de posts, de partages, de likes. Donc, tout ça c'est très, 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 très important, surtout quand ça fait l'objet d'une rémunération. Donc, le métier de chasse de tête, il n'est pas mort. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, tout le monde, demain, est chasseur de tête. Et je voudrais juste
faire l'idée.
Ici, voilà, les alumni, clairement, les apprentis qui sont passés par le CFAFIA, nous, notre ambition, c'est de développer ce genre de cooptation par les alumni. Vous connaissez forcément des gens qui vont arriver, qui sont dans des écoles, dans des facs. Donc, votre réseau, tout ce que vous avez fait ensemble ici pour ce projet, tout ce que vous allez faire encore ensemble jusqu'à la fin de l'année, connaissez-vous, allez voir les étudiants dans les couloirs, parlez-leur aussi en mode réel, mais aussi en mode virtuel. Connectez-vous à eux sur les sites pour aussi demain pouvoir être un coopteur et parler de ce genre d'applications qui sont mises en place et qui sont très, 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 très...
Il y a tout à fait un point d'application pour dans les écoles et les universités où les étudiants, les alumni peuvent aussi recommander des futurs étudiants, puisque ça fait aussi le lien avec le monde de l'entreprise, avec les offres d'emploi. En général, on a un taux d'engagement assez élevé quand on est alumni ou étudiant d'une école. Et aujourd'hui, les écoles, les universités, pas qu'elles se jouent une grosse concurrence, mais il y a quand même une concurrence quelque part pour attirer aussi des bons étudiants et attirer du monde. Et en fait, voilà. Mais après, le monde de l'université et de des écoles est différent de celle de l'entreprise. Donc, c'est aussi un secteur sur lequel j'enquête. Mais ce ne sont pas les mêmes leviers.
Alors, merci pour ces interventions. Catherine, j'ai vu que tu avais levé la main. Il y a aussi, alors, on va peut-être prendre d'autres personnes.
Je vais d'abord laisser la parole à d'autres, oui. Et puis tu pourras la donner s'il y a du temps. Merci.
Alors, tu les vois les questions, parce que moi, j'arrive pas à les voir. Catherine, je peux te passer la main.
Oui,
tu vois la question.
Almaz.
Oui. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, je suis du coup DPO à Nanterre, à l'Université Paris-Nanterre. Je me posais la question un peu des désavantages de ce genre d'applicatif. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des effets négatifs sur les salariés qui ne seraient pas dans le système de cooptation? C'est-à-dire, est-ce que concrètement, est-ce qu'ils ne seraient pas défavorisés, que ce soit dans leurs avantages ou dans leur grille salariale, de ne pas utiliser ce système-là? Et deuxième point, est-ce que il n'y aurait pas un effacement de la limite vie privée et vie professionnelle? Est-ce que c'est pendant les heures de travail qu'il faut faire de la cooptation ou c'est comment?
Alors, excellente question. Alors, déjà, ce système-là, alors pour votre première question, vous parlez d'un éventuel désavantage du salarié qui a coopté ou qui n'a pas coopté, ou du candidat qui a été recruté par ce biais? Du salarié.
Je parlais du désavantage au salarié de ne pas coopter, par exemple, des personnes, par rapport à ses collègues qui cooptent.
Alors, en fait, là-dessus, moi, le principe, il est simple. Si vous êtes salarié, vous ne voulez pas utiliser l'application, vous ne l'utilisez pas. Dans les entreprises aujourd'hui, il y a de la cooptation. Il y a des salariés qui vont se prendre au jeu parce qu'ils aiment ça. Ok, il y a peut-être une récompense, mais aussi il y a des salariés qui ont la fibre RH, qui sont commerciaux, ils sont managers, ils ont la fibre RH, comme il y a des salariés qui ont la fibre commerciale ou qui ont la fibre communication. Là, l'idée, c'est de dire, vous avez 100 salariés, il y en a peut-être 30 qui vont jamais utiliser le système, c'est d'ailleurs les chiffres qu'on a, il y en a 60, 70 qui vont utiliser régulièrement le système, et il y a un cœur de réacteurs qui va être très engagé parce que la cooptation, ils aiment ça. C'est des gens de réseau, ils sont sur les réseaux sociaux, ils gardent des liens. Donc moi, j'ai envie de dire, si vous voulez pas utiliser le système, vous l'utilisez pas, et en aucun cas, le management ne va vous pénaliser. Alors là, pour le coup, j'ai parfois eu des retours sur des questions de points de récompense culturelle. Jamais une entreprise ne m'a dit « je vais pénaliser tel ou tel collaborateur parce qu'il n'utilise pas le système ». Je note votre point, tout à fait, mais je pense que pour l'instant, ça n'existe pas. Et votre deuxième point, c'était – excusez-moi, j'ai perdu le fil
c'était de savoir quand il faut faire ça. Est-ce que c'est dans le cadre professionnel, dans le cadre de
quand
la
vie privée
Alors, le cadre, c'est quand même du temps qu'on consacre à l'entreprise, et c'est peut-être en dehors des heures de travail, c'est pas rémunéré.
Alors, c'est du temps qu'on consacre à l'entreprise. Alors, encore une fois, c'est vous, collaborateur, salarié, qui décidez. Si vous voulez l'utiliser pendant les heures de travail, et ensuite vous mettez votre téléphone dans un frigidaire et vous l'utilisez plus, ce dont je doute, parce qu'en général, tout le monde utilise son téléphone pendant les heures de travail et pendant le week-end. Donc en fait, encore une fois, c'est le salarié qui décide. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'utilisation de l'interface mobile. Elle est tellement simple qu'en fait, il est quasiment impossible de passer plus d'une minute sur l'application. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'avoir une à deux minutes de connexion par salarié, par semaine ou par mois, mais multiplié par 200, 500 ou 2000 salariés, c'est là où vous avez la force de frappe qui peut être intéressante. Comme c'est sur la base du volontariat et derrière quand même il y a aussi un feedback, il y a une récompense qui peut arriver, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Les salariés utilisent, consultent Facebook sur leur téléphone et sur leur ordinateur de bureau. Donc, ils pourraient tout à fait poster de temps en temps un contenu ou coopter un pote dans un bar un samedi. Je sais que ça va pas se faire, mais bon, on peut imaginer. Vous voyez, ça peut aller aussi dans l'autre sens.
Après, c'est d'accord. Une question, excusez-moi, en tout cas, ça montre le marquage avec le master sciences humaines et sociales. L'addiction de l'entreprise, droit à la déconnexion. Donc,
c'est des vrais points.
Et cette question, elle est très bonne.
La question de Walid.
Oui, merci. J'avais une petite question sur ce côté justement marque employeur, parce que c'est vrai qu'on a des enjeux de marque employeur externe, mais est-ce que monsieur le maître, vous pensez que il peut y avoir une connexion peut-être entre le réseau social de l'entreprise et ses employés, dans le sens où des annonces de l'entreprise pourraient passer par l'application par exemple?
Alors, tout à fait. En fait, nous, les annonces de l'entreprise, que ce soit des offres d'emploi ou des contenus de communication, genre, on a racheté telle boîte, genre, regardez, découvrez Walid, notre nouvel apprenti, regardez son processus, toutes les contenus de communication de l'entreprise et les offres d'emploi, nous, on les récupère automatiquement. Soit elles sont hébergées sur LinkedIn, soit sur un site carrière, soit sur un intranet, ce qui permet de récupérer automatiquement. Donc, le lien, en effet, peut tout à fait se faire pour récupérer ce contenu sur des intranets qui... Je suis un expert des intranets, mais dans 90% des cas, ont coûté très cher, sont très peu ergonomiques et ne fonctionnent relativement pas. Donc l'idée aussi, c'est de récupérer toute la matière, de fluidifier le processus et de l'envoyer au salarié pour qu'en gros, il en fasse ce qu'il veut. Donc en effet, nous justement, on s'intègre, on s'interface. On ne crée pas un nouveau job board, on ne crée pas un deuxième site carrière, on ne crée pas même un... On n'est pas un ATS, on ne va pas récupérer les CV... Justement, on s'infiltre, on s'intègre, on s'interface dans des processus existants, dont des intranets.
Catherine ?
D'accord, merci.
Catherine ?
Oui, merci Eric. Merci Sébastien pour votre présentation qui était extrêmement intéressante. J'avais en fait un peu la même question du coup que notre DPO sur le fait que... Moi, je pensais qu'il y avait un biais en réalité parce que vous dites que ça se fait sur la base du volontariat. Mais bon, comme on apporte de la valeur à l'entreprise, je me dis on a tout intérêt à le faire pour être bien vu, entre guillemets. Et je me posais même la question de savoir si ça allait si l'intérêt n'était pas de rendre en fait pratiquement obligatoire ce type de procédé dans à moyen ou long terme. Je voulais aussi vous demander par rapport au, à la personne que vous recommandez. Cette personne que vous recommandez, comment elle consent en fait au dispositif? Tout simplement en cliquant sur le fait qu'elle candidate. Est-ce que c'est de cette façon-là que vous recueillez le consentement de la personne? Et je voulais savoir qui voyait les informations
le par rapport au consentement sur les données.
Le consentement sur...
Pardon, il y a une petite coupure.
Ah pardon, excusez-moi, le consentement sur le fait de participer en fait au processus de cooptation.
Le consentement, c'est exactement le même consentement que dans un processus de cooptation classique. Je vais appeler mon ancien pote de mon ancienne boîte en disant on cherche un consultant, est-ce que tu veux candidater chez moi?
Voilà, donc c'est le clic en fait.
Envoie-moi ton CV et je vais donner ton CV aux équipes RH. Et le clic, c'est exactement le même clic que quand le candidat va cliquer sur une annonce sur LinkedIn. Donc c'est exactement la même chose.
Mais c'est parce que là, en fait, par rapport à, par exemple, qui voit les informations concernant sa place dans le processus de recrutement? Est-ce qu'il n'y a que la personne qui le recommande?
Il n'y a que les équipes RH, évidemment, et le coopteur. Et en gros, les étapes qu'il voit, c'est 1, je lui ai envoyé l'offre, 2, il a envoyé son CV, 3, il est en cours d'entretien, mais on ne sait pas où est-ce qu'il en est, 4, il a été sélectionné. Autant d'informations que souvent le coopteur a ou aura à la fin du processus. Là, l'idée, c'est de lui donner l'information en temps réel. En temps réel, à quelques jours près, mais c'est de lui donner l'information. Puisque souvent, en fait, quand vous cooptez quelqu'un dans la vraie vie, vous avez l'information parce que la personne que vous avez coopté, vous avez déjà travaillé avec lui, donc forcément, vous allez lui demander l'information. Donc, dans tous les cas, le salarié aura l'information. Là, l'idée, justement, avec le numérique, c'est de l'automatiser. De façon à ce que ce soit valable sur des grands...
Il y a une traçabilité, c'est pour ça que je me posais la question du consentement, parce qu'il y a quand même une traçabilité de tout ça. Tout ça est conservé, tout ça est tracé. À la différence du coup de fil où je vous envoie mon CV, vous voyez, c'est un peu différent.
Je suis d'accord avec vous.
Des données qui ont de la valeur aussi pour vous, il y a une double valeur en fait. Le salarié vous apporte.
Je vais peut-être prendre la parole là, parce que ce qui me semble par rapport à ces applications, donc l'application qui a été présentée, moi je la trouve très convaincante, ergonomique. Elle a été conçue et travaillée de manière réussie. C'est par rapport à la question de la cooptation, ce que me semble apporter le numérique qu'on n'avait pas pensé avant, c'est qu'il y a vraiment un encadrement à faire. C'est-à-dire que nous, quand on en gestion des ressources humaines, donc quand on sait qu'il y a des problèmes de la cooptation qui sont en termes de créativité de l'entreprise, qui peuvent des fois faire venir des profils trop similaires, ça c'est un problème de la cooptation. Des fois c'est un avantage aussi puisqu'on voit que des cabinets de consultants fonctionnent comme ça. Pour un cabinet de consultants, faire venir des profils très similaire à ce présent, c'est un gain de productivité en réalité. Donc il y a la première aspect de l'encadrement, c'est que si on l'élargit, je parlais tout à l'heure de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui peut rentrer dans le jeu de la cooptation. À ce moment-là, il y a vraiment de mon point de vue une politique RH à mettre en place, c'est-à-dire où est-ce que je mets en place ce système-là, pendant combien de temps, est-ce que je le mets en place dans toute mon entreprise, voilà. Donc il y a ça, et puis il y a un deuxième aspect là par contre qui est vraiment lié à la technologie numérique, enfin aussi, puisqu'avant il y avait le jeu d'échelle, ça c'est numérique, mais il y a aussi un autre aspect, et c'est celui de la traçabilité. Si on prend l'avant numérique, c'est-à-dire quand on avait que des crayons, on avait tendance dans les organisations, alors les entreprises, les administrations, à préférer les gens qui étaient dans la ligne. C'est comme ça que les organisations fonctionnent, et si on ne fait pas attention, on arrive à avoir des systèmes qui sont des systèmes brutaux. Et il se trouve que le numérique ajoute la possibilité de répondre à une question qu'on se posait habituellement, enfin qu'on peut se poser de temps en temps, c'est est-ce que les gens qui sont avec moi sont bien dans la culture en fait que je souhaite développer. Et là, quand on voit par exemple qu'on peut mesurer une activité, alors pour la récompenser, mesurer une performance pour la récompenser, mais vu d'un autre côté, c'est la surveiller cette performance. Donc on peut avoir des dérives possibles. Donc ils tiennent pas à l'application. Si je veux, c'est un peu comme les armes, c'est-à-dire c'est pas les armes qui sont méchantes, c'est ceux qui les tiennent. Mais il y a quelque chose avec cette application probablement à contrôler. Donc juste pour arriver à une question quand même, je pense qu'il y a du côté des RH qui sont pas du côté des fournisseurs d'applications, il y a vraiment une réflexion d'encadrement à faire autour de ça, à cause de ça. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est les clients qui t'as été en interaction, donc avec qui, comment ils utilisent cette application, c'est-à-dire est-ce qu'ils l'utilisent pour toute l'entreprise en général, voilà, ou est-ce qu'ils l'utilisent à certains moments pour certains services. Et puis deuxième question, est-ce que vous avez vu un encadrement éthique en fait de cet usage-là, ou est-ce que c'est sous-réfléchi encore?
Alors, sur l'utilisation de Push Talents, en fait, il n'y a pas de règle, c'est l'entreprise qui décide. Soit elle va déployer Push Talents sur l'ensemble des salariés, soit elle va déployer ça sur un nombre limité d'ambassadeurs. Je ne vais pas citer de nom d'entreprise. Il y en a, ils sont 200, ils vont déployer sur tout le monde. Il y en a, ils sont 2000, ils vont déployer sur les 2000. Il y en a, ils sont 300 000, ils vont déployer sur 150. Voilà. C'est dans le cadre de leur politique RH de définir c'est quoi un ambassadeur. C'est un expert, c'est un sachant, c'est un manager, ou alors on ouvre à tout le monde. Moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il faut ouvrir à tout le monde, parce qu'en matière de digital, il faut que l'usage, il faut que l'adoption vienne du plus grand nombre, et il faut utiliser le système pour que ça fasse justement caisse de résonance. Mais moi, je ne suis pas DRH chez mes clients, donc je ne vais pas décider à leur place. Pour répondre à votre question, Eric, on a là un prospect en ce moment, c'est une grosse ESN, ils sont 2000, ils veulent l'ouvrir sur les 2000 personnes. Alors moi, j'ai pas recommandé ça, mais à la rigueur, c'est eux qui décident. Mais l'utiliser pendant 4 mois, pendant une campagne flash de recrutement.
D'accord.
Ils doivent recruter 100 consultants très spécifiques. Ils ont une grosse urgence. Ils veulent l'utiliser pendant 4-5 mois. Donc, on peut utiliser, c'est la magie du système, pendant une campagne de recrutement ou de communication pendant 4-5 mois. Voilà. Donc, ça, de ce côté-là, c'est en effet, il faut que ça s'intègre à la politique RH. Après, sur la maturité, sur l'éthique, la déontologie, là, j'ai envie de dire, les questions que vous posez sont essentielles, mais ce sont exactement les mêmes questions que lorsqu'on déploie un Oracle, un SAP, quand on déploie n'importe quel un intranet, un email, dès qu'on déploie un outil numérique ou dès qu'on met en place des nouveaux processus de la mobilité interne, de talent management, il y a un moment, si l'entreprise n'est pas mature, n'est pas éthique, si les salariés ne sont pas engagés, il va y avoir un problème. Et c'est vrai que nous, Push Talents, on n'a pas forcément vocation à résoudre ces problèmes. Mais voilà, nous, on donne en fait un outil, on donne un cadre. Mmh. On essaie d'amener de la transparence, de créer une communauté, de dynamiser, plutôt en voyant le verre à moitié plein, en disant, il y a des petits malins qui vont essayer de contourner le jeu, il va y avoir des problèmes de data. Ok, tout ça, ce sont des points très importants. Mais j'ai tendance à dire, la majorité des gens, et c'est l'expérience qu'on a avec nos premiers clients, en fait, la majorité des utilisateurs vont plutôt voir ça plutôt par le prisme plutôt positif en disant, ok, il y en a peut-être qui vont être un petit peu, peut-être pas forcément dans le système ou qui vont peut-être être à côté, qui vont vouloir contourner, qui vont avoir des aspects négatifs, mais au global, la majorité des utilisateurs vont le voir sous un prisme plutôt positif.
Si je peux me permettre, juste un mot, excusez-moi, il y a un point déjà, la cooptation, elle existe déjà de manière ultra importante. Nous, ce qu'on dit à nos étudiants globalement, enfin, c'est qu'on ne voit que 20-30% de l'offre. Beaucoup de candidatures sont liées à des candidatures directes, spontanées, mais aussi à beaucoup de cooptations. Moi, j'ai un cas, Maïmouna, ici, qui est chargée de recrutement, que je viens de recruter. On n'a pas passé d'annonce à la FIA. Je l'ai rencontrée lors d'un atelier handicap. Elle était chez Unir 93 Cap Emploi. J'ai trouvé qu'elle était tellement brillante qu'il y avait un poste et j'ai voulu qu'elle vienne chez nous. Ça se fait beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'en rencontrant des gens, on se dit, mince, cette personne-là, elle est tellement bien qu'on aimerait travailler avec. Donc c'est comme ça que ça se fait. Donc il y a aussi beaucoup de bienveillance, et si c'est une opportunité qu'on propose à une personne, après qu'il y ait des outils en plus, ben, c'est très bien que ça existe. Il y a une autre question par contre qui rejoint un peu ce que disait Almaz, c'est qu'est-ce qui se passe quand on coopte mal vis-à-vis de l'entreprise. Alors c'est-à-dire que oui. Parce que c'est facile de coopter. Moi je peux coopter tous mes copains ou tous mes étudiants, mais comment qui coopter? Et quand on touche la prime, est-ce que malgré le passage des différents entretiens RH, et des fois il y en a deux, trois, j'ai l'impression qu'on en a eu cinq, et que la personne au bout de deux mois elle s'en va, quid des points, quid de la prime?
Alors, c'est une question que je me pose. Moi la question là-dessus, ma réponse elle est catégorique. Un, la cooptation c'est du sourcing. L'enjeu de la cooptation c'est de trouver un CV, un candidat qui va envoyer son CV. Mon rôle en tant que coopteur s'arrête là. Je ne suis en aucun cas responsable de la qualité du processus de recrutement, de la qualité des entretiens. Si mon candidat que j'ai coopté passe des étapes de recrutement et quitte sa période d'essai, ce qui d'ailleurs, dans des cas de cooptation, on a des taux de rupture de période d'essai bien plus inférieurs que sur les autres cas, mais quand même, ça peut arriver. Mmh. En aucun cas, je ne peux être tenu pour responsable. Ça, c'est mon avis. Et si le processus d'onboarding est mal fichu, d'intégration, si les managers sont des mauvais en interview, c'est pas mon problème. C'est pour ça que moi, je vais plus loin. En disant la prime de cooptation, en aucun cas, et j'ai rencontré un DRH qui m'a dit ça, qui est d'accord avec moi, mais en fait je pense que personne ne s'est penché sur la question, ne serait-ce que 5 minutes, donner une prime de cooptation à la fin de la période d'essai est une hérésie.
Je suis d'accord avec vous.
Je ne suis pas responsable de la bonne validité de la période d'essai. Oui. Si la personne que j'ai cooptée, je sais pas, il part à Acapulco, il a une autre offre, il s'est cassé, mais peu importe, la responsabilité ne doit pas être portée sur mes frêles épaules de salarié. Mais le point, Jean-Luc, que vous levez est intéressant, puisque vous n'êtes pas le seul à m'en avoir parlé. J'ai des entreprises qui m'ont dit, et il y a des entreprises, mais là c'est de la culture d'entreprise, en disant, ah, mes salariés ils vont pas vouloir coopter, parce qu'en fait, après, ils se disent, tiens, lui, il a été recruté par Jean-Michel, il était pas bon, et donc en fait, c'est Jean-Michel le fautif. Attendez, non. Mais c'est un frein important. Mais d'un point de vue purement managérial et point de vue RH, on peut pas faire porter la responsabilité d'une manière ou d'une autre sur le salarié. Alors après, il peut y avoir une perception en interne, parce que justement, l'éthique peut-être ou la culture de l'entreprise est un peu malsaine, à mon sens, en disant tiens, regarde, c'est lui qui l'a coopté, lui c'est un mauvais, il a coopté son copain, c'est aussi un mauvais, voilà. Mais encore une fois, pour un cas comme ça, il y en aura 10 où il y aura des cooptations qui se passent.
À la marge. Mais ça va arriver.
Oui, vous avez
oui, merci. C'est pas une question, c'est un peu pour appuyer le propos de Monsieur Omettre, parce que la précision de Jean-Luc est bonne, je trouve. Mais c'est vrai que on en avait parlé l'autre jour. Mais Bouchetalent, si je me trompe pas, ils vont me contredire si je me trompe. C'est pas une application dans le conseil en ressources humaines. C'est une application qui propose un service et donc c'est bien. Bien sûr. Je pense pour ça que on peut pas vous reprocher justement le fait de
tout à fait. Ah non, mais moi, il n'y a aucun reproche. Moi, j'ai fait du conseil. Là, aujourd'hui, on ne vend pas de conseil. Alors, dans la mise en place de l'application, on peut conseiller sur le montant des primes, sur les types de récompenses qu'on peut mettre en place. Mais en aucun cas, moi, j'ai l'intention d'intervenir sur le processus RH ou sur la politique RH. Non pas que je ne pourrais pas, mais c'est pas. On se concentre purement sur le numérique et le digital. Si demain, on veut vendre des services en plus, on le fera. Mais moi, j'essaie plutôt de m'adapter aux organisations plutôt qu'avec un système qui va répondre à 80% des besoins, parce que c'est le principe du SaaS. On essaie de répondre à 80% des besoins pour m'adapter justement aux entreprises. Si l'entreprise veut mettre la prime à la fin de la période d'essai, je vais pas lui dire, écoutez, vous êtes mignon, je vais pas travailler avec vous, vous faites n'importe quoi.
Oui. Alors. Après, justement, excusez-moi, j'ai quand même une petite question. C'est donc là, l'application Push Talent est surtout développée en France, n'est-ce pas, ou
oui.
Dans d'autres pays?
Et, alors, moi, pour des raisons personnelles et familiales, j'habite en Chine, mais On a d'abord eu des clients en Chine, on a développé en Chine et on a eu des clients en France. On a arrêté la Chine pour des raisons commerciales, stratégiques, culturelles. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails. On est uniquement maintenant en France. Donc la société est immatriculée en France. Les datas sont hébergées en Europe et l'application est essentiellement pour le marché français, européen, enfin occidental, quoi.
D'accord, parce que justement, j'allais vous demander, mais la cooptation, j'imagine, qu'en Chine ou aux États-Unis ou dans n'importe quel pays dans le monde, doit être perçue différemment et doit avoir d'autres enjeux, non ?
Exactement. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui utilisent beaucoup plus la cooptation que d'autres. Les États-Unis, l'Inde, par exemple, l'utilisent énormément. La France, un peu moins. Souvent, pour des raisons un peu... on confond cooptation et piston. Parfois, il n'y a pas une approche pragmatique, en fait. Moi, j'ai raconté l'anecdote d'un président d'une PME qui m'a dit non, mais nous, on ne veut pas utiliser la cooptation. Il n'y a pas de retour sur investissement mesurable. On va continuer à passer par des chasseurs de tête. Bon. Et là, je suis tombé de ma chaise. Et en fait, aux États-Unis, dans ces pays-là, ils ont une approche très pragmatique. Ils connaissent les coûts de sourcing. D'accord. Donc un coût de sourcing pour trouver un candidat, ça coûte en France entre 3 et 15 000 euros. Donc ces 15 000 euros, est-ce que je les donne à un chasseur de tête ou alors est-ce que j'essaie de créer une dynamique en interne où c'est les salariés qui vont nous aider ? Voilà, la réponse, je pense qu'elle est claire dans l'esprit de tout le monde. Donc je pense qu'il y a là pour le coup un problème, mais une espèce de maturité sur ces questions-là. Et la cooptation n'est pas perçue de la même façon en France et dans les pays et les autres pays du monde. En Chine, il y en a beaucoup, mais c'est très informel. C'est le guanxi qu'on appelle, le réseau en chinois. C'est beaucoup plus informel, mais pour le coup, un système comme ça, les entreprises en Chine ne sont pour l'instant pas du tout prêtes. Parce que ça met, je pense, trop de transparence aussi dans les processus. Voilà. Après, je suis pas un expert de la cooptation sur tous les pays du monde. C'est le ressenti que j'ai avec quelques entretiens, etc.
C'est déjà pas mal. Merci beaucoup.
Voilà. Il y a d'autres questions. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces échanges.
Merci.
Merci Sébastien pour cette,
merci à vous.
Pour cette présentation et les réponses et qu'on a pu avoir les échanges. Catherine, est-ce que je te passe la parole pour conclure ?
Merci Eric, vous m'entendez là ?
Oui, c'est bon.
C'est bon. Merci beaucoup Eric. Oui, alors ce webinaire se situe en réalité dans la continuité de celui organisé par la chaire le 23 novembre dernier et qui avait pour thème le quotidien numérique, étaient déjà abordées les questions d'hyperconnectivité au travail, de surcharge informationnelle ou encore de burn-out informatique. Lors de ce webinaire, la psychologie environnementale avait ainsi montré comment l'intensification de l'usage du numérique a un impact sur la perception de notre environnement professionnel, tandis que le recours aux sciences de l'information et de la communication avait permis de mieux comprendre l'épuisement technologique au travail. La méthode ethnographique nous avait également offert une grille de lecture intéressante concernant la question de la digitalisation continue des espaces de travail. Aujourd'hui, ce nouveau webinaire est venu assurément enrichir ces premières réflexions et cette fois-ci, à mon avis, sur une note beaucoup plus positive, puisque, en effet, on a pu constater que la numérisation du travail et le travail en ligne, expérimenté donc par beaucoup dans le contexte de la crise sanitaire, pouvait générer des inquiétudes, car la digitalisation met à l'épreuve le travail des salariés et des agents, les gains se mesurant dans les capacités d'usage de l'outil et non dans la mise en place de l'outil lui-même. La numérisation met également à l'épreuve le pouvoir de décision de ces salariés et de ces agents, puisque les algorithmes sont utilisés de façon massive dans la vie de tous les jours pour prendre des décisions sensibles, comme des décisions judiciaires par exemple, voire vitales, comme des diagnostics médicaux. Mais malgré ces inquiétudes, les interventions de ce matin ont démontré que les nouveaux logiciels métiers et la création d'applications innovantes participent également au bien-être des travailleurs. Le numérique permet par exemple de changer de façon temporaire le lieu d'exercice de sa profession. Il permet de travailler en réseau et non plus en silo. Il permet d'acquérir de nouvelles compétences pour faire face notamment aux failles de l'architecture électronique. Il permet également de prendre des décisions plus pertinentes, voire peut-être aussi de vivre une forme de schizophrénie, comme nos magistrates l'ont dit tout à l'heure. La création donc de cet écosystème en ligne favorable à l'émergence de nouveaux outils numériques n'est toutefois possible sans la création d'infrastructures de données, permettant notamment d'encoder un grand nombre d'informations de manière à les rendre lisibles puis réutilisables par la machine. À titre d'exemple, l'intelligence artificielle permet le développement de logiciels spécifiques pour la pratique juridique afin de favoriser ce qu'on appelle la smart justice, au sens de justice intelligente, mais aussi au sens de justice astucieuse. Ces applications, qualifiées de legal tech, permettent notamment d'aider à la rédaction des jugements, d'évaluer les risques contentieux en réduisant l'aléa judiciaire, d'analyser des contrats, de prédire l'issue d'un litige en se basant sur une très grande quantité de décisions de justice déjà rendues. Le Conseil d'État vient d'ailleurs de valider l'application DataJust qui permet aux tribunaux d'établir les indemnisations auxquelles ont droit les victimes de préjudices corporels, et cette application sera donc opérationnelle en mars. On verra la suite que sera donnée à l'application, donc Mon Suivi Justice, par le ministère de la Justice en mars également. Ces données sont donc le carburant indispensable au développement des applications numériques et à la mise en place de nouvelles stratégies sur le fonctionnement et le gouvernement des organisations. Et c'est la raison pour laquelle les recherches sur la donnée sont au centre des préoccupations de la chaire. Que ce soit la question de l'exploitation de ces données, produites notamment à partir des bâtiments connectés, que ce soit la question de la protection des flux de données qui circulent dans le monde du télétravail, que ce soit la question du corps humain connecté, corps humain comme lieu d'échange de données, ou encore la question du partage utile et acceptable des données entre différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, et bien évidemment avec les individus. Les approches ainsi décrites sont très participatives, incluant donc une large palette de chercheurs aux disciplines variées, mais aussi des organisations partenaires, allant des entreprises privées aux régulateurs publics, en passant par les industriels concepteurs de solutions numériques. Le périmètre du programme scientifique de la chaire, vous l'avez compris, n'est donc pas limité. Et nous vous invitons à venir renforcer nos efforts de recherche par de nouveaux axes stratégiques de recherche ou de nouvelles propositions avec notamment des méthodes de travail en mode agile. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse de la chaire Godot qui va apparaître dans le fil de la conversation. Et dans l'attente de votre mobilisation, l'agenda de la chaire va se poursuivre par un nouveau webinaire le 17 mars qui portera sur le thème du smart working, en collaboration notamment avec Great Place to Work. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon appétit.
Merci à tous, merci de votre présence durant cette matinée, et merci à tous ceux qui sont intervenus et qui nous ont aidés à organiser ce webinaire. Voilà. Au revoir tout le monde.
Merci beaucoup, bonne journée.
Au revoir, au revoir à tous, merci encore.
Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Merci.
Merci aux étudiants. Je pense, Christina, que vous pouvez arrêter l'enregistrement.